France Culture, du grain à moudre, émission spéciale jusqu'à 20h pour une déclaration universelle des idées.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au studio 106 de Radio France dans cette édition spéciale du grain à moudre, exceptionnellement jusqu'à 20h dans le cadre de la deuxième nuit des idées organisée par l'Institut français. J'en profite d'ailleurs pour remercier toute l'équipe de ping-pong qui nous a gentiment laissé sa place. Alors pour une déclaration universelle des idées, c'est donc le mot d'ordre que nous allons décliner ce soir à travers une discussion en trois temps. Aux alentours de 19h30, nous nous demanderons si les bonnes idées sont contagieuses. Et nous le ferons en compagnie d'Anne-Lorraine Bujon, d'Anastasia Colosimo, d'Akram Belkaïd et de Brice Couturier. Auparavant, l'historien Sanjay Subramaniam et l'essayiste Jacques Attali auront dialogué autour de la question suivante. Peut-on penser à l'échelle du monde ? Mais pour commencer cette soirée, quelqu'un qui connaît le monde comme sa poche, pour l'avoir beaucoup parcouru depuis 4 ans, pour accompagner la promotion de son livre, il s'agit de Thomas Piketty. Bonsoir Thomas Piketty.
Bonsoir.
Les idées ont-elles du pouvoir ? C'est la question dont nous allons discuter pendant une demi-heure avec vous, dans le cadre donc de cette deuxième nuit des idées. Thomas Piketty, vous êtes économiste, directeur d'études à l'EHESS, professeur à l'École d'économie de Paris. Votre dernier livre publié aux éditions Les Liens qui Libèrent, c'est Aux urnes aux citoyens, qui est un recueil de chroniques que vous avez publié dans la presse. Mais le livre, évidemment, qui a fait le plus parler à votre sujet, c'est Le Capital au XXIe siècle. J'avais vu il y a quelques mois que c'était un livre qui devait être adapté au cinéma sous forme documentaire. On en est où de ce projet ?
Ça suit son cours, oui, ça va bientôt arriver. Je ne sais pas très bien ce que ça va donner encore, hein, très franchement, mais j'ai accepté l'idée parce que le producteur, le réalisateur avait l'air très motivé. J'ai tendance à penser que le plus important, c'est quand même le livre. Hein. Mais bon, après, voilà, je suis sûr qu'il y aura des choses intéressantes dans le film aussi.
Alors c'est justement le livre qui va faire l'objet de notre discussion ce soir. Je voudrais commencer, tiens, d'ailleurs, peut-être par essayer d'examiner un petit peu quelle est l'actualité du constat que vous aviez posé dans ce livre, qui était celui d'une augmentation des inégalités liées aux inégalités de richesse. Il y a quelques jours de cela, il y a une ONG, Oxfam, qui a démontré que les 8 plus grandes fortunes mondiales, alors on y retrouve le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, Carlos Slim, Bill Gates, tout un tas d'autres noms, enfin 8 noms en tout cas, qui détiennent autant de richesses que la moitié la plus pauvre de la population mondiale. Est-ce que vous diriez que c'est un constat qui conforte votre analyse ?
Oui, alors moi, mon analyse, c'est surtout Bon, ça s'appelle Le Capital au XXIe siècle pour attirer le lecteur, mais en vérité, ça parle surtout du passé, parce que moi, j'ai pas beaucoup de choses à dire, j'ai beaucoup plus de choses à dire pour l'analyse du passé que de l'avenir. Je crois que l'analyse du passé peut permettre d'éclairer des tendances, mais ce que j'essaye de faire surtout dans ce livre, c'est d'essayer de comprendre pourquoi les inégalités évoluent, varient suivant les sociétés, les périodes, parce que moi je suis pas du tout de ceux qui disent que les inégalités augmentent toujours et de façon permanente et qu'on peut rien y faire, parce que c'est pas ça le sens de l'histoire. Dans l'histoire, il y a des phases très différentes. Et un des constats qui fonde mon livre et qui, je crois, est d'actualité aujourd'hui, c'est que finalement, au XXe siècle, on a eu une forte réduction des inégalités, mais qui a été essentiellement le produit de chocs politiques extrêmement violents. L'impact des guerres mondiales, l'impact de la révolution bolchévique, le contre-modèle communiste a fait beaucoup de dégâts dans certains des pays concernés, mais il a mis la pression sur les excès du système capitaliste et ont conduit les élites politique, financière des pays capitalistes, a accepté après 1945 notamment des réformes fiscales, sociales qui étaient refusées jusqu'en 1914. Et de ce point de vue-là, la France est intéressante parce que on est un pays qui en aime se gargariser de l'idée d'égalité. On dit avoir une passion infinie pour l'égalité, mais il y a énormément d'hypocrisie derrière tout ça. Et en vérité, on est un des derniers pays, par exemple, à adopter l'impôt sur le revenu, qui est adopté par la loi du 15 juillet 1914 en France. Et c'est pas pour construire des écoles, c'est pour partir en guerre avec l'Allemagne. Et alors ensuite, après les guerres, on l'utilisera pour autre chose. Mais il y a toujours une très grande hypocrisie parmi les élites pour justifier un niveau d'inégalité qui, quand on le regarde avec le recul historique, on peut dire qu'il est insoutenable.
Parce qu'il y avait aussi
et aujourd'hui, je crois que c'est quelque chose, c'est une leçon vraiment qu'il faut avoir présent à l'esprit.
Il y a une idée dans le livre qui est aussi de dire qu'en dehors fort justement de ces chocs qui ont peut-être un effet régulateur sur ces inégalités. Il y a comme une force qui serait intrinsèque au capitalisme et qui conduirait à quoi ? Donc à ce que les inégalités augmentent toujours davantage parce que le patrimoine augmenterait plus vite que les richesses qui sont issues du revenu du travail.
Il n'y a pas de fatalité parce qu'il n'y a pas un capitalisme. Il y a des systèmes de propriété, différents systèmes légaux de régulation des systèmes de propriété. Donc il n'y a pas une tendance inévitable. Simplement, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est revenu progressivement, ça a mis longtemps, mais on est revenu dans un système de quasi-sacralisation de la propriété privée, de sacralisation des lois du marché, qui a un certain nombre de points communs avec ce qu'on pouvait voir au XIXe siècle jusqu'en 1914. J'en veux pour preuve la très grande difficulté qu'on a aujourd'hui, notamment en France et en Europe, à gérer cette crise de la dette publique très très forte. Et là, je crois qu'un retour par l'histoire est très important, parce que en vérité, au-delà des schémas classiques d'affrontement entre la gauche et la droite qu'on a eu pendant les Trente Glorieuses, on a besoin, pour penser cette crise, de revenir plus loin encore et de se souvenir que, en fait, on est aujourd'hui dans une situation très paradoxale. C'est-à-dire que l'Allemagne et la France, dans une certaine mesure, expliquent aux pays d'Europe du Sud que toutes les dettes doivent être payées jusqu'au dernier euro, sans inflation, sans annulation de dette, alors que ce sont ces deux mêmes pays, l'Allemagne et la France, qui, après la Seconde Guerre mondiale, se sont débarrassés de leur dette publique par des mesures exceptionnelles, par des annulations de dette, des prélèvements exceptionnels sur le capital privé, notamment en Allemagne, de l'inflation, ce qui crée d'autres chocs plus violents. Et que là, aujourd'hui, c'est comme si on oubliait cette leçon et qu'on revenait à un schéma qui était plutôt celui du 19e siècle, où là, pour le coup, un pays comme le Royaume-Uni a passé tout le 19e siècle à rembourser ses propres rentiers. Et finalement, en investissant plus d'argent de ses impôts pour rembourser des intérêts de la dette à ses classes les plus favorisées, qu'il n'en investissait dans l'avenir, dans la formation, dans les infrastructures. Je crois qu'aujourd'hui, il y a un grand risque que l'Europe entre comme ça dans une phase très très longue de remboursement de dette. L'expérience historique nous apporte un enseignement ici, c'est que quand on a un niveau d'endettement pareil, c'est très difficile d'y venir à bout par des mesures normales, quoi. On a besoin de mesures exceptionnelles pour oublier un peu les erreurs du passé, se tourner vers l'avenir. Ça, ce sont des leçons que beaucoup feignent d'ignorer aujourd'hui. Je crois qu'il y a un très grand conservatisme quand on entend les débats dans beaucoup des grands médias, y compris parfois à Radio France, à France Télévisions. On voit plein de grands éditorialistes qui expliquent doctement qu'il n'y a qu'une seule chose à faire. Et en fait, dès qu'on se tourne vers l'histoire, on voit que les choses sont toujours plus compliquées. C'est-à-dire, il y a toujours des alternatives. Il y a toujours toutes ces crises-là, crise d'inégalité, crise de dette publique, ont déjà eu lieu dans le passé. Ça ne veut pas dire qu'il y a des solutions faciles, mais il y a toujours plusieurs façons de gérer ces situations.
À ce sujet, il y a d'ailleurs eu récemment un rapport de France Stratégie qui a succédé, on va dire, au commissariat au plan, et qui faisait un rapport sur l'état du patrimoine en France, en posant la question, est-ce qu'on se dirige à nouveau vers une société d'héritier? Je dis à nouveau parce que justement dans ce rapport, il était mentionné la comparaison avec la société balzacienne, donc qui est effectivement celle que vous décrivez, en tout cas à laquelle vous vous référez quand vous parlez de cette époque historique qui devrait peut-être nous donner un certain nombre, comment dire, de leçons, en tout cas d'indications sur ce qu'il faut faire ou sur ce qu'il ne faut pas faire.
Alors c'est vrai qu'il y a un retour des patrimoines, de l'héritage, sous une forme qui est un peu différente de celle du 19e siècle, c'est-à-dire que le volume total des successions des biens à hériter retrouve des niveaux assez proches par rapport au revenu national, par rapport à la masse salariale de ce qu'on avait au 19e siècle, mais avec, disons, moins de très très grosses successions et plus de successions importantes, mais pas suffisamment importantes pour en vivre. Donc je m'explique, il y a un indicateur que je calcule dans mes recherches qui je trouvais assez parlant, c'est quelle est la part de la population, quelle est la part d'une génération, sur la génération par génération, qui va recevoir en succession donations l'équivalent d'une vie au salaire minimum, ou une vie un peu plus du salaire minimum. Si on prend le revenu moyen gagné avec leur travail par les 50% d'une génération qui gagne le moins, donc c'est pas beaucoup au-dessus du salaire minimum, c'est, mettons, 15 000 euros par an sur 50 ans, 700 000 euros, 800 000 euros. C'est un peu ce qu'a gagné Pénélope Fillon là en 10 ans comme assistante parlementaire, si j'ai bien compris.
Mais bon,
c'est ce que gagne la moitié de la population sur sa vie, par son travail. Et une des questions que je pose dans mon travail, c'est quelle proportion d'une génération gagne l'équivalent de ça, reçoit l'équivalent de ça en succession et donation. Et on se rend compte que dans l'après-Seconde Guerre mondiale, l'héritage avait presque disparu. C'est-à-dire qu'on avait à peine 1%, 2% d'une génération qui recevait l'équivalent. Si on regarde les générations actuellement, les générations, moi je suis né dans les années 70, donc j'ai beaucoup de tendresse pour cette génération-là, mais c'est encore plus vrai pour la génération dans les années 80, on est à presque 15%, 14-15% d'une génération qui va recevoir 600, 700, 1000, 800 000 euros, enfin, si on fait la moyenne sur les 15% qui reçoivent le plus, en succession de donations. Alors, évidemment, c'est un montant, 700, 800 000 euros, qui n'est pas suffisamment important pour s'arrêter complètement de travailler. Et de fait, les personnes en question vont sans doute faire de très belles études et gagner des salaires importants. Mais en même temps, c'est quand même autant que ce que 50% de cette même génération va gagner sur toute sa vie par son travail, en étant serveur, caissière de supermarché, en faisant des boulots pas très rigolos. Donc c'est quand même une forme d'inégalité qui est un peu dérangeante, mais qui est différente de celle de la société balzacienne, où là, c'est pas tellement que vous aviez 15% qui allait recevoir 800 000 euros, mais plutôt 1% qui allait recevoir 5 millions. Et donc c'est différent. Aujourd'hui, disons, il y a plus de moyens rentiers et moins de très gros rentiers. Et cette société des petits rentiers ou des moyens rentiers que j'essaie de créer dans mon livre, c'est une société qui est peut-être plus difficile encore à réguler de façon politiquement que celle du 19e siècle. Donc, je suis pas dans l'idée, on n'est pas dans un retour au passé, on est dans quelque chose qui est encore différent, qui est pas la structure inégalitaire la société de rentiers du 19e siècle, qui est pas non plus cette espèce de société, cet idéal méritocratique dans lequel on a cru après la Seconde Guerre mondiale, mais qui était en partie le fruit de chocs extrêmement violents qui avaient détruit des patrimoines. C'est encore quelque chose de différent et qui va encore évoluer d'abord au gré des rapports de force politique, des prises de conscience, et c'est là que les idées, le conflit politique intellectuel évidemment prend toute son importance.
Et alors justement, arrivons à cette idée, enfin une des idées que vous évoquiez dans votre livre Le Capital au XXIe siècle, puisque vous avez parlé de régulation, il y a vous êtes spécialiste de la question de la fiscalité, et vous proposiez un impôt progressif mondial sur le patrimoine. J'aimerais savoir, le livre est sorti en 2013. Où est-ce qu'elle en est aujourd'hui, cette idée que vous avez lancée? Ce que je veux dire, où est-ce qu'elle en est? C'est-à-dire, est-ce que vous la voyez progresser, si ce n'est dans les faits, dans son application? Parce que bon, force est de constater qu'il n'y a pas aujourd'hui d'impôt progressif mondial sur le patrimoine, mais en tout cas dans les esprits. Est-ce que c'est une idée dont on débat aujourd'hui?
Oui, alors entre ne rien faire du tout et puis avoir une coordination mondiale parfaite et un impôt parfaitement coordonné mondial, il y a beaucoup de choses. Il y a le monde réel et il y a un continuum de possibilités entre ne rien faire du tout et avoir une coordination parfaite. Disons, ce que je crois aujourd'hui, c'est qu'on voit bien à quel point la montée des inégalités dans les pays riches, comme dans un certain nombre de pays émergents, conduit à des tensions politiques extrêmement graves. Et pour moi, le principal danger, si on ne s'oriente pas vers plus de coordination en particulier sur le terrain de la justice fiscale et sociale. Et en un mot, pour l'instant, il y a eu très peu de réactions depuis la crise de 2008. On a beaucoup parlé. On a des responsables politiques qui ont régulièrement annoncé la fin des paradis fiscaux, le début, etc. Mais c'est vraiment un domaine où on a souvent un gouffre abyssal entre les proclamations victorieuses de responsables politiques et la réalité de ce qu'ils font. Et donc là, moi, je suis assez inquiet parce que le principal risque pour moi, il est clair, c'était le même d'ailleurs il y a un peu plus d'un siècle, à la veille de la Première Guerre mondiale. C'est que si on n'arrive pas à s'attaquer de façon apaisée, raisonnable aux inégalités, alors il y a vraiment un risque que les tensions nationalistes, xénophobes soient aiguisées, parce que c'est toujours tentant, lorsqu'on n'arrive pas à résoudre de façon apaisée l'action des inégalités, de désigner des coupables, de désigner des boucs émissaires qui peuvent être les travailleurs immigrés, qui peuvent être d'autres pays, qui peuvent être la Chine, qui peuvent être l'Allemagne, qui peuvent être le Mexique, qui peuvent être les musulmans.
Est-ce que ça veut dire, Thomas Piketty, que pour vous, ce que vous êtes en train de dire, c'est que cet impôt mondial, j'y reviens quand même, sur le patrimoine, ça n'est pas forcément une idée raisonnable, ou en tout cas, ça n'est pas une idée qui est censée être applicable aujourd'hui? Alors, j'ai vu quelque part que vous parliez d'utopie utile pour la décrire.
Oui, alors d'abord, il y a tout un ensemble de politiques, d'institutions qui permettent de réguler les inégalités et de réguler les relations de propriété. Il y a le système légal, d'abord, c'est la façon dont on organise les rapports sociaux, les relations de propriété. Il y a beaucoup de sortes de capitalisme différents. Vous prenez en Suède ou en Allemagne, depuis des décennies, vous avez entre un tiers et la moitié des sièges des conseils d'administration. des entreprises qui sont occupées par des représentants des salariés. Pendant très longtemps en France, les employeurs, les patrons, ont dit « Oh là là, quelle drôle d'idée, si vous mettez des salariés dans les trucs, ils vont nous faire n'importe quoi, etc. Il faut mieux les garder en dehors, les avoir dans la rue, je sais pas. » Bon, et quand même, au bout d'un certain temps, les gens ont fini par dire en France « Oui, mais bon, regardez, finalement, les entreprises en Allemagne et en Suède, ça n'a pas l'air de leur faire tant de mal que ça d'avoir ces salariés au conseil d'administration. » Et donc, finalement, il y a eu une loi, d'ailleurs, il y a seulement 2 ans, qui a introduit un représentant salarié sur 12 membres de conseil d'administration, alors qu'en Allemagne et en Suède, on a ça depuis des décennies. Mais ça montre aussi que les choses peuvent changer. D'ailleurs, même au Royaume-Uni, la nouvelle première ministre a annoncé l'été dernier qu'elle allait peut-être introduire des choses pareilles. On en est encore très loin, c'est encore très léger. Donc déjà, il y a des façons de partager le pouvoir au sein du capitalisme qui passe pas forcément par l'impôt. Il y a aussi des formes de propriété intermédiaires entre la propriété strictement publique et la propriété strictement privée, des fondations, des sociétés de médias avec un pouvoir qui n'est pas forcément concentré chez les actionnaires, qui peut être chez les lecteurs, des nouvelles formes de financement participatif, le crowdfunding. L'impôt dans tout ça, ce n'est qu'une des façons de limiter la perpétuation des rapports de force, des rapports de propriété, et l'impôt annuel progressif sur le patrimoine, c'est une façon un peu comme l'impôt sur les successions, dont ce rapport récent de France Stratégie effectivement rappelait à quel point ça allait être un enjeu pour l'avenir, vu l'importance des transmissions et le rôle que ça joue dans l'accès à la propriété immobilière, qui quand même, pour les jeunes générations aujourd'hui, accéder à la propriété immobilière lorsque vous n'avez pas de transmission familiale, que vous avez uniquement votre revenu de votre travail, c'est beaucoup plus difficile. Donc ça, ce sont des enjeux concrets. Est-ce que tout ça est statique? Non, ça évolue dans tous les sens. C'est-à-dire que vous voyez que même sur la question de l'impôt sur la propriété, pour vous répondre, il y a des évolutions en Europe où vous avez même des institutions très très conservatrices comme le FMI ou comme la Bundesbank en Allemagne qui se mettent à vanter parfois les mérites de l'impôt sur la propriété simplement parce que il y a un moment, c'est aussi une question de bon sens. Je pense que les quand vous êtes dans une période de stagnation salariale et de très grande prospérité patrimoniale, donc avec des niveaux de capitalisation immobilière, financière qui sont très très élevés par rapport à des salaires qui stagnent, c'est un peu une question de bon sens de se dire, bon, on va peut-être essayer de décharger un peu les salaires et de prendre un peu plus sur la propriété, notamment détenue par des générations souvent plus âgées.
Question de bon sens, donc, Thomas Piketty, donc, mais permettez-moi juste de vous reposer peut-être la question un petit peu différemment, c'est-à-dire que vous, cette idée d'un impôt progressif sur le patrimoine, vous l'avez lancé en disant on pourrait mondialiser cet impôt. À quoi ça sert, en fait, finalement, de lancer une idée comme celle-là, dont on sait très bien, a priori, que si elle est appliquée, il va falloir énormément de temps pour qu'elle le soit. Mais ce que je veux dire, c'est que, est-ce que c'est aussi l'idée d'avoir une idée suffisamment forte et originale et qui se démarque pour pouvoir ensuite, derrière, faire passer vos idées et peser peut-être dans le débat public pour justement donner des pistes de régulation de ce qu'est le capitalisme aujourd'hui. Avec le micro.
Il y a des évolutions très, très concrètes en termes de coordination internationale qui, sans être à l'échelon complètement mondial, sont parfaitement réalistes et, d'une certaine façon, commencent un petit peu à se produire. Vous savez, il y a quelques années, moi, avant que j'écrive mon livre, tout le monde disait le secret bancaire en Suisse, c'est quelque chose d'inattaquable, la Suisse est trop puissante pour nous, etc. Bon, et finalement, il a suffi d'une menace du gouvernement fédéral américain sous Obama de retirer les licences bancaires aux établissements suisses qui refusaient de transmettre au fisc américain l'identité contribuable pour que la Suisse change immédiatement son cadre légal. Donc la bonne nouvelle, c'est que les sanctions, les pressions peuvent marcher. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'a pas été capable en Europe de le faire, alors que quand même la France, l'Allemagne, l'Italie sont beaucoup plus menacées par un paradis fiscal au cœur de l'Europe que les États-Unis. Donc la conclusion de tout ça, c'est que il y a déjà des choses qui se font, mais on peut beaucoup mieux faire. Moi, je pense que un des enjeux peut-être de l'avenir, c'est que on ne va plus pouvoir dans la mondialisation actuelle avoir des grands traités internationaux qui portent uniquement sur le commerce. Et on voit tous les débats TAFTA qu'on a eu, etc. On peut pas. Je pense qu'on doit aujourd'hui avoir des traités internationaux qui d'abord mettent en avant la question d'un modèle de développement équitable et durable. Ça veut dire que ça ne va pas être des proclamations de principe. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des articles dans les premiers chapitres de ces futurs traités internationaux, des articles qui soient contraignants sur des taux minimaux d'imposition des bénéfices des grandes sociétés, des cibles d'émissions carbone. Il peut y avoir dans ces mêmes traités ensuite des éléments d'ouverture commerciale, de standards communs pour échanger entre l'Europe, le Canada, les États-Unis, etc. Mais ça doit venir. Enfin, le commerce ne doit être qu'un moyen au service de fins plus importantes. Donc, la grande époque des traités purement commerciaux de libération commerciale, je pense que là, c'est terminé. C'est un peu triste que finalement, un des coups soit venu disons de la droite avec Trump, qui pour le coup lui en fait se présente comme revenant sur le libre-échangisme à tout craint, etc., mais en vérité représente plutôt une fuite en avant vers le dumping généralisé. Et on va le voir d'ailleurs très très vite, puisque un des grands projets de Trump, c'est de réduire l'impôt sur les bénéfices des sociétés à 15%, alors qu'il était jusqu'ici, il était resté à 35% au niveau fédéral aux États-Unis, auquel il faut même ajouter les taux des États qui nous mettaient à 45%, alors que l'Europe, pour le coup, jusqu'ici, c'est l'Europe qui avait mené la danse en termes de dumping fiscal sur l'impôt sur les sociétés, et où chaque pays baissait, l'Irlande à 10%, la Pologne. Et là, les États-Unis, finalement, c'est d'ailleurs en partie de notre faute en Europe, parce qu'on n'a pas su plus tôt reprendre en main notre fiscalité sur les sociétés. Finalement, là, ce sont sans doute les États-Unis de Trump qui vont remettre une pièce dans la machine en chutant de leur taux à 15%, ce qui veut dire qu'en Europe, on va redescendre encore plus bas parce que l'Irlande va dire « Ah ben, je suis plus compétitif ». Et quand on sera à 0%, qu'est-ce qu'on fera? Ce sera pas fini. On fera des subventions aux investissements pour qu'ils puissent venir, et donc on sera en négatif. Donc cette course-poursuite qu'on a vue ces dernières années, moi, elle peut aller plus loin encore. Donc, oui, il y a des solutions, mais je pense que d'abord ça demande de pas laisser ces questions aux autres. C'est-à-dire, moi, je crois que c'est ça le message principal, et en même temps c'est le message d'espoir dans ce tour du monde que j'ai fait avec mon livre. C'est que j'ai rencontré dans beaucoup de pays différents, pas seulement que dans les pays développés, heureusement, mais aussi au Brésil, en Afrique du Sud, en Chine, en Égypte, dans beaucoup de pays. J'ai rencontré beaucoup de gens qui sont évidemment pas des économistes, qui sont des citoyens, qui sont des militants, qui font toutes sortes de professions, qui sont avant tout des citoyens, et qui en ont assez d'entendre que ces questions économiques, financières sont trop compliquées pour eux et qu'il faut les laisser à un petit nombre d'experts qui auraient développé une science tellement scientifique que personne d'autre ne peut la comprendre, ce qui est évidemment une gigantesque blague. Mais en même temps, au-delà de la responsabilité d'un certain discours économique très conservateur, il y a aussi une responsabilité de tous ceux qui les ont laissés faire. C'est-à-dire tous ceux qui disent « Ah, mais moi, j'y comprends rien, j'y connais rien. » Ce n'est pas une matière facultative. Ces questions ne sont pas des questions techniques. Et c'est des questions que chacun doit s'approprier. Et je pense qu'une grande partie de notre désarroi démocratique contemporain vient du fait qu'on a trop sous-traité les questions économiques et financières, qu'on les a sorties du débat politique. Et moi, ce qui me rend quand même optimiste, c'est que je sens qu'il y a un appétit de connaissance, de ne pas laisser ce pouvoir. Mais il y a eu travail à faire, parce qu'il y a un conservatisme intellectuel. J'évoquais tout à l'heure les éditorialistes dans les grands médias. Moi, je vois les réactions des uns et aux autres, aux candidatures des uns et des autres. On n'est pas, c'est pas gagné. Hein.
Ce travail qui reste à faire, Thomas Piketty, vous pouvez le faire vous de plusieurs manières. Enfin, c'est ce que vous faites en intervenant dans les médias, en écrivant des livres, en rencontrant aussi alors énormément de monde à travers votre tour du monde, mais aussi des gens qui sont ou qui étaient au pouvoir. Alors j'ai vu que vous aviez notamment été reçu par la présidente du Chili, Michelle Bachelet, par celle d'Argentine, Cristina Kirchner. Et puis on avait beaucoup parlé du fait que vous aviez été reçu par les conseillers économiques de Barack Obama. Est-ce que ce sont des rencontres qui, pour vous, vous ont paru utiles, en tant qu'utiles, du point de vue de la diffusion de vos analyses? Ou bien est-ce que c'est des rencontres qui n'ont peut-être pas changé grand-chose, qui ont contribué à votre notoriété, qui ont peut-être aussi contribué d'ailleurs à ce que les personnes que vous rencontriez soient sur une belle photo avec l'intellectuel à la mode à l'époque? Mais en tout cas, est-ce qu'il y a eu une utilité de ces rencontres pour vous?
Moi, je suis quelqu'un de plutôt poli, donc quand on m'invite, j'y vais. Enfin, ça dépend quand même un peu qui m'invite, mais j'ai plutôt tendance à être curieux. Donc, rencontrer Michelle Bachelet, Cristina Kirchner, deux femmes d'ailleurs très différentes, deux parcours très différents, c'est toujours intéressant. En même temps, je vais vous dire le fond de ma pensée, c'est que moi, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse le plus quand je vais voyager, là, c'est plutôt de rencontrer des étudiants, d'être dans des grands amphithéâtres, de répondre à des questions, ce qu'on ne peut pas faire malheureusement ici ce soir. Mais je trouve que c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire, on n'écrit pas des livres pour les responsables politiques ou les princes qui nous gouvernent. On écrit des livres pour les citoyens, pour tous ceux qui lisent des livres. Et si les responsables politiques lisent des livres, tant mieux pour eux, tant mieux pour nous aussi. Je suis pas sûr, malheureusement, qu'ils en lisent toujours beaucoup. Je crois qu'ils s'imaginent toujours que ils ont pas le temps, qu'ils ont des choses plus importantes à faire, alors qu'en fait, ils passent beaucoup de temps à faire des choses pas forcément très utiles, passer plein de temps dans des déjeuners interminables, des protocoles, des réunions. Je pense qu'ils devraient prendre le temps de lire des livres. Maintenant, certaines de ces rencontres, non, Michel Bachelet, c'est un parcours intéressant. C'est un parcours, son père avait un parcours tragique au moment du coup d'État contre Allende. Elle-même, c'est une femme qui a essayé de porter, pour le coup, des réformes sociales et fiscales pour mieux financer l'éducation. Donc, c'était un exemple assez intéressant quand même d'une réforme fiscale qui était vraiment destinée à augmenter le financement de l'éducation dans un pays où la privatisation du système éducatif sous Pinochet avait quand même atteint des proportions inouïes. C'est-à-dire qu'à un moment, même les écoles étaient des sociétés par action qui devaient suivre un motif de profit. Enfin, on était vraiment parti dans une idéologie à la fois ultralibérale, très autoritaire, de la pire espèce. Donc, elle, c'est très intéressant de rencontrer des personnes comme ça qui pour le coup, explique très précisément ce qu'ils veulent faire. Christina Kirchner, c'est encore un autre exemple. Moi, j'ai beaucoup appris dans ces voyages. En Afrique du Sud, j'ai également vraiment rencontré des gens formidables. Moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est de voir à quel point il y a une demande un peu partout pour une démocratisation, une forme de démocratisation de la connaissance historique, économique et sociale. Ce qui m'a fait très plaisir aussi, c'est de voir que dans cette sur ces presque 3 millions d'exemplaires où le livre s'est vendu, finalement, plus des trois quarts, même 80%, sont dans des langues autres que l'anglais. C'est-à-dire l'anglais, c'est moins d'un quart du total. Donc on s'imagine parfois, en tout cas les Américains, qui ont tendance à être particulièrement auto-centrés, s'imaginent que voilà, il n'y a plus que l'anglais, il n'y a plus que les universités américaines. Bon, mais en fait, pour finir, les gens lisent beaucoup plus en chinois, en brésilien, en allemand, en français, en indien, qu'en anglais. Et c'est vraiment, il y a un débat public mondial qui prend des formes différentes dans différents pays, parce que l'histoire des inégalités, c'est l'histoire politique, culturelle de chaque pays. La problématique en Afrique du Sud, en Inde, n'a pas grand-chose à voir avec celle en Europe. Et c'est une des grandes limitations de mon livre à laquelle j'essaye de répondre maintenant dans mes nouvelles recherches, et de sortir un peu des problématiques ouest-européennes, nord-américaines, très centrées sur le XXe siècle. Les chocs liés aux guerres mondiales, les chocs liés à la révolution bolchevique, qui sont très importants, bien sûr, mais bon, vu de l'Inde, vu de l'histoire des inégalités en Afrique du Sud, au Brésil, en Inde, bon, ça a moins d'importance que vu de France. Et donc ça, c'est une des grandes limites, parmi bien d'autres, de mon livre, c'est d'être trop européocentré. Et j'essaye maintenant de dépasser un peu ce cadre d'analyse.
Vous m'offrez une transition toute trouvée pour la prochaine partie de la discussion, mais j'ai quand même, avant de vous laisser repartir, Thomas Piketty, une dernière question sur votre mode d'intervention, finalement, aujourd'hui, dans le débat public. Alors, je ne vais pas vous poser la question qu'on vous pose, je pense, quasiment à chaque fois, c'est-à-dire quand est-ce que vous vous lancez véritablement en politique, même si vous êtes déjà intervenu dans des campagnes pour soutenir des candidats, mais plutôt sur le rôle que vous pourriez jouer, peut-être un petit peu plus actif ou avec peut-être davantage de proximité auprès des dirigeants. Il se trouve que hier matin, sur l'antenne de France Culture, Guillaume Herner recevait deux conseillers économiques, Laurence Boone pour François Hollande et Emmanuel Moulin, qui était conseiller économique de Nicolas Sarkozy. Est-ce que c'est un poste, vous, je ne sais pas si on vous l'a proposé, mais si on vous l'avait proposé, est-ce que c'est un poste que vous auriez pu accepter que de conseiller?
Non, je ne crois pas, parce que moi, je crois vraiment dans le pouvoir des livres, des idées. C'est vraiment ça que j'ai envie de faire. Je pense qu'on fait beaucoup plus de politique en écrivant des livres pour 3 millions de personnes, en participant à des débats publics avec des milliers de personnes, qu'en écrivant des notes pour un cabinet ministériel, ou même parfois en faisant des discours de Premier ministre et de Président. Vous voyez, ce qui me frappe dans beaucoup de discours de François Hollande ou de responsables politiques, c'est en général à quel point il y a beaucoup de vide, parce que souvent ils ont tellement peur d'être contredits par leurs troupes, que finalement très souvent ils n'annoncent de choses précises que quand l'état de l'opinion publique est tel que c'est devenu une position dominante, et encore là ils ont encore très très peur, etc. Donc moi ça me paraît beaucoup
peut-être
plus intéressant.
Peut-être que s'ils avaient des conseillers qui leur disent
pas, je crois pas. Non, je pense parce que d'abord la démocratie, ça se passe pas dans des conseillers, des cabinets Michel, ça se passe d'abord au grand jour. C'est-à-dire ce qui compte, c'est la formation de l'opinion dominante. Donc moi ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est d'essayer de participer à la transformation de cette opinion dominante. Je crois dans le pouvoir des livres. Je crois dans le pouvoir des idées, ça suffit pas. Après, il y a les rapports de force, des forces sociales qui s'emparent de ces livres, qui les transforment. Il y a les rapports de force, des luttes. Mais je crois fondamentalement dans le pouvoir des livres et je vais continuer d'écrire des livres, évidemment.
Bon, vous croyez dans le pouvoir des idées, ça tombe très bien pour cette deuxième nuit des idées donc, à laquelle France Culture s'est associée. C'est associé à l'Institut français qui organise cette grande nuit. Merci beaucoup, en tout cas, Thomas Piketty, d'avoir ouvert cette émission spéciale qui va donc nous conduire tous ensemble jusqu'à 20h. Merci à vous.
Merci.
France Culture, du grain à moudre, émission spéciale jusqu'à 20h pour une déclaration universelle des idées.
Toujours en direct du studio 106 de la Maison de la Radio, en direct et en public pour cette émission spéciale du grain à moudre dans le cadre de la deuxième nuit des idées, avec à présent cette question ou ces questions. Il y en a beaucoup à poser à nos deux invités puisqu'ils sont deux désormais. Peut-on penser à l'échelle du monde ou avons-nous besoin d'idées globales? Et j'ai le plaisir de recevoir Sanjay Subramaniam et Jacques Attali. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Sanjay Subramaniam, vous êtes historien, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Histoire globale de la première modernité. Vous avez publié l'an dernier chez Alma Éditeur « L'éléphant, le canon et le pinceau, histoire connectée des cours d'Europe et d'Asie ». Jacques Attali est économiste, écrivain, président de la Fondation Positive Planète, qui promeut l'économie positive, c'est-à-dire une économie qui rend le monde meilleur. Votre dernier livre, si j'ai bien suivi votre actualité éditoriale, parce que comme vous publiez beaucoup, c'est pas toujours facile, c'est normalement chez Fayard, c'était en octobre dernier, Vivement après demain. Alors si on a eu envie de vous réunir tous les deux, c'est parce que vous posez tous les deux un regard singulier sur le monde qui nous entoure et donc forcément sur les idées qui gouvernent aujourd'hui ce monde, un monde dont on dit aujourd'hui qu'il est en train de se rétracter sous l'effet de ce que certains appellent peut-être abusivement la démondialisation. Il y aurait une démondialisation qui est politique avec la montée du nationalisme et puis une démondialisation économique qui serait à travers la remise en cause du libre-échange et la montée du protectionnisme. Est-ce que vous constateriez la même chose sur le plan des idées? Autrement dit, est-ce qu'on pourrait parler aujourd'hui d'une démondialisation des idées, Sanjay Subramaniam?
Non, je ne crois pas. Et d'ailleurs, j'ai aussi mes doutes sur ce rapport entre, disons, le nationalisme et la mondialisation, que me semble pas être, comme on dit, un jeu à somme zéro. C'est pas comme si plus il y a de la mondialisation, moins il y a de nationalisme et le contraire. En fait, il y a une espèce de va-et-vient. Et d'ailleurs, je pense que les formes actuelles de nationalisme, en fait, elles ont quelque chose à voir justement avec la mondialisation. Vous voyez donc la forme dont, par exemple, le Parti républicain exprime son nationalisme aujourd'hui, c'est pas du tout la même façon dont, par exemple, le Parti républicain des années 20 ou du siècle dernier ou du 19e siècle exprimait son nationalisme. Donc, de la même façon, je pense pas
c'est
que...
C'est pas une forme d'opposition à la mondialisation, mais c'est plutôt une forme d'accompagnement de cette mondialisation.
Non, je veux dire que ça pourrait être ouvertement... on peut faire semblant d'opposer la mondialisation, mais en réalité, la réalité est plus compliquée que ça. C'est-à-dire, il y a une espèce... Vous voyez que, bon, pour dire les choses simplement, vous avez M. Trump, qui est soi-disant contre la mondialisation, mais qui est le premier à utiliser les paradis fiscaux. Alors, c'est quoi ça? Hein? Donc, manifestement, il n'est pas contre la mondialisation, il utilise un certain type de discours, mais il est dedans et dehors en même temps.
Jacques Attali, alors sur cette hypothèse d'une contraction des idées, d'une démondialisation des idées, c'est-à-dire d'idées qui peut-être seraient moins populaires à travers le monde, parce qu'il y a une contestation des effets de la mondialisation. Est-ce que vous partagez
Il y a beaucoup d'évolutions simultanées. Hein. Nous sommes plus de 7 milliards, donc on ne peut pas trouver un courant unique à 7 milliards d'individus. Et sur 7 milliards, il y a beaucoup de millions de gens qui pensent, qui écrivent et qui se considèrent comme porteurs d'idées, à juste ou titre ou pas. On peut voir plusieurs courants, plusieurs formes en marche. D'abord, il y a une occidentalisation du monde. Même si l'Occident décline, tout le monde devient occidental. Je prendrai le parallèle avec ce qui s'est passé à la fin de l'Empire romain, au 4e, 5e siècle. L'Empire romain est tombé, mais tout le monde était romain. En tout cas, sauf l'Asie, bien sûr, mais une grande partie de l'Occident, assez loin, était romain. On s'habillait comme des romains, on parlait latin, on avait pris la religion des romains, etc. Et aujourd'hui, vous allez dans n'importe quel coin du monde, presque n'importe quel coin du monde, je parlerai de l'Inde, qui est un cas particulier, et évidemment, sous votre contrôle. Tout le monde s'intéresse au foot et connaît les matchs des championnats de Grande-Bretagne ou de France, et tout le monde s'habille de la même façon occidentale. Donc il y a une universalisation de la pensée occidentale au moment où l'Occident décline. On voit même, par exemple, sur le mariage, qui prend la forme du mariage occidental, au moment où le mariage occidental décline. Des classes moyennes qui se développent partout, sauf en Occident, où elles déclinent. Donc, il y a premier mouvement, c'est cette occidentalisation du monde. Deuxième mouvement, assez différent, mais qui s'inscrit à l'intérieur de ce mouvement, c'est la fierté des cultures nationales, qui est en train de se développer de façon massive, qui s'inscrit dans ce même courant, c'est-à-dire à l'intérieur de l'occidentalisation du monde, c'est moi qui domine. Moi, je vois beaucoup de mes amis intellectuels indiens ou intellectuels singapouriens ou latino-américains qui sont fiers de leur identité et qui voient le monde avec la carte, eux, au centre. Et souvent à juste titre. Parce que souvent à juste titre, le monde va plus vite, c'est plus optimiste. Ça, c'est le deuxième mouvement. Et le troisième mouvement, c'est qu'il y a un début de pensée globale, c'est-à-dire d'intellectuels qui pensent le monde comme un. Vraiment comme un. C'est tout ce qu'on voit autour de l'écologie, tout ce qu'on voit autour de mouvements scientifiques divers, tout ce qu'on voit autour de la pensée universaliste. Et c'est le grand débat de toutes les philosophies entre le un et le multiple, entre le monothéisme et le polythéisme. Et donc le un, avec ce qui est certainement au bout de la route, c'est-à-dire l'unisexe, la fin de la séparation des sexes, et au bout de la route aussi, la prise de conscience de ce que la grande question de demain, c'est la survie de la vie, et donc l'unité autour de la vie. Donc voilà tous les mouvements simultanés qui sont simultanés, mais pas nécessairement contradictoires.
Alors, juste avant de demander à Sanjay Subramaniam s'il partage votre analyse, si on essaie peut-être au moins de faire se rejoindre deux des mouvements que vous décrivez, Jacques Attali, est-ce que ça veut dire que l'émergence de cette pensée globale aujourd'hui, pour vous, c'est avant tout une pensée occidentale ?
Pas forcément, puisque vous avez une pensée globale autour de l'islam, avec l'Oumma, qui est une pensée globale. Vous avez une certaine forme de pensée globale autour de la pensée chinoise, même si la pensée chinoise reste quand même, autour de l'Empire du Milieu, pas tout à fait globale. Mais plus généralement, vous avez une dialectique très profonde, qui est en effet occidentale, même si on peut en débattre, sur la dialectique entre marché et démocratie. Quand on parle de globalisation, c'est une globalisation du marché, mais pas une globalisation de la démocratie. Et on devrait dire globalisation du marché, alors qu'il n'y a pas de globalisation de la démocratie, ou au moins même pas de globalisation de la règle de droit. Donc, en effet, c'est la globalisation de l'économie telle que vue par l'Occident, même si on peut... Il y a beaucoup de débats sur... Et Amartya Sen a beaucoup écrit là-dessus, sur le fait que ni le marché ni la démocratie sont des inventions occidentales, même pas grecques. Amartya Sen a écrit beaucoup sur le rôle de l'Inde il y a 3000 ans dans l'invention de la démocratie, et d'autres penseurs indiens aussi. Mais malgré tout, c'est quand même un couple occidental, marché-démocratie, et la pensée globale, de ce point de vue, est plutôt occidentale.
Sanjay Subramaniam.
Je pense qu'il faut distinguer entre deux choses quand même, c'est-à-dire qu'on a souvent tendance de confondre. C'est-à-dire il y a ce qu'on peut appeler la pensée universelle. Et ça, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ou même il y a 500 ans ou 900 ans, qui étaient capables de penser à partir de l'être humain et donc avoir une pensée universelle. Je peux donner des noms des grands philosophes en Inde qui ont fait ça, dont personne n'a entendu parler en Occident. Si je parle de Abhinavagupta, grand théoricien de l'esthétique universelle. Oui, mais alors, mais pensée globale, c'est autre chose, parce que pensée globale, c'est aussi penser le problème de la spécificité et la diversité des cultures, qui n'est pas du tout le même type de démarche de l'universalisme, qui en fait, qui a un peu tendance de effacer la spécificité et la diversité des cultures pour dire, bon, on est tous dans le même bateau, pour ainsi dire, on a tous les mêmes problèmes, etc., etc. Donc, je pense qu'il est assez utile de penser que c'est beaucoup plus facile, en fin de compte, d'avoir des prétentions universelles que d'avoir la capacité de penser globalement.
Donc la pensée universaliste, c'est une pensée qui cherche à s'imposer. La pensée globale, ça serait une pensée qui respecterait la diversité de quoi, des idées du monde.
Non, c'est pas. Oui, bien sûr, si on a la pensée universelle plus une armée, on peut l'imposer. Bon, sinon, si on est un penseur, je ne sais pas, qui habite le Zimbabwe, qui a des pensées universelles, ça, on n'a pas le droit d'imposer ça sur qui que ce soit, peut-être sur la population dans son propre pays. Non, non. Donc, je n'irai pas aussi vite pour dire que les pensées universelles s'imposent tout de suite. Mais ce sont deux formes différentes, vous voyez. Et donc, pour moi, souvent, quand on dit il y a ceci ou cela qui est global, on va vers cette célèbre phrase de Thomas Friedman que le monde est plat. Hein? Mais non, si on a une vraie connaissance du monde, on sait tout de suite que le monde n'est pas plat, du tout. Et ce n'est pas plus plat aujourd'hui que c'était il y a 150 ans.
Est-ce que ce qui est à l'œuvre aujourd'hui et qui peut-être nous étonne à travers... Alors c'est vrai qu'il y a une actualité dont on parle beaucoup. C'est compliqué aujourd'hui d'ailleurs de parler de quelques sujets presque que ce soit sans évoquer bien sûr ce qui se passe aux États-Unis avec l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. On a beaucoup parlé du Brexit. Aujourd'hui, on apprenait qu'en Russie, il y avait une dépénalisation des violences conjugales et puis violences contre les enfants au nom justement du respect de l'identité nationale. C'est-à-dire en disant, voilà... On ne peut pas accepter forcément des idées qui seraient universelles. Mais est-ce qu'une des nouveautés aujourd'hui, Jacques Attali, ça n'est pas de se rendre compte, non pas que l'universalisme ne peut pas s'appliquer à tout le monde, mais que même ceux qui étaient censés le promouvoir, c'est-à-dire les Occidentaux, finalement, on rejette peut-être certaines de ces valeurs. Évidemment, il y a le fameux trio, la liberté, l'égalité, la fraternité. La liberté avec le mur au Mexique, l'égalité avec la montée justement des inégalités, et la fraternité qui peut être liée à la crise de l'Union européenne, par exemple.
Beaucoup de choses à dire sur tout ça. Ce qui est en train de se jouer, sans aucun doute, c'est... La question de savoir si ce qui est global va le rester ou si ça va disparaître. Ce qui est global, c'est sans aucun doute l'économie. Elle est globale. Et elle l'est de plus en plus avec les technologies. Et la discussion que vous aviez tout à l'heure avec Thomas s'inscrit bien là-dessus. Si on peut comprendre ce qui se passe dans les inégalités, c'est parce qu'on a un marché global. Et on peut dire même que pour la première fois dans l'histoire humaine, on a un marché sans État. On a toujours eu des marchés avec un État. Et la théorie économique qui nous parlait de la théorie du marché sans État n'a jamais pu trouver une application. Simplement aujourd'hui, le premier marché sans État, c'est le monde. C'est un marché sans État et ça explique beaucoup de choses sur l'aggravation des inégalités, sur la mauvaise allocation des ressources, etc. Et en même temps, ça explique aussi le fait que, comme le marché est global, mais que la démocratie ne l'est pas, les peuples se sentent désappropriés de ce qu'ils sont. Et en fait, au fond, ce qui se joue et ce qui explique pourquoi il y a à la fois cette globalisation de l'économie, mais ce refus de cette globalisation que vous avez évoqué, c'est que les peuples ne veulent pas se désapproprier leur rôle dans l'histoire. Tant individuellement, c'est notre liberté, que collectivement, nous voulons rester des acteurs de l'histoire. Nous voulons le redevenir, même si nous n'avons pas été. Et pour être des acteurs de l'histoire, il faut évidemment pas laisser les lois du marché jouer. Sauf à imaginer une démocratie de type suisse planétaire, que les Suisses ont fait en 4 siècles, ils ont monté progressivement. Sauf imaginer une démocratie à l'indienne, qui s'est fait à l'arraché, puisque l'Inde est une invention de la fin de la colonisation britannique. C'est même une invention britannique, puisque ce n'existait pas avant. Et il a fallu le génie d'un homme inconnu de tout le monde, sauf de quelques-uns, Monsieur Patel, avec Monsieur Gandhi et surtout avec Monsieur Nehru, pour faire l'Inde comme un ensemble uni. À l'échelle du monde, il faudrait un Nehru, un Patel et un Gandhi pour faire un monde aussi rassemblé que la diversité indienne. On l'a pas et on l'aura sans doute pas avant un siècle. Mais c'est ça qui est devant nous, si on veut maintenir à la fois la diversité qui existe en Inde et la globalité nécessaire pour que chacun reste un acteur de l'histoire. Si on n'a pas ça, et on n'aura sans doute pas ça pendant longtemps, la volonté de se réapproprier notre rôle dans l'histoire individuellement et collectivement va entraîner en effet les formes les plus caricaturales de l'identité comme celles que vous avez évoquées. Si je peux juste terminer un mot, au XVIIIe siècle, il y a eu un événement du même genre qui a indiqué le début du nationalisme. Un petit événement anecdotique qui s'est passé vers 1760-70, ça a été progressivement en Europe l'interdiction d'écrire des opéras en italien et l'obligation d'écrire des opéras dans la langue nationale. Ça a été le premier signe qui a conduit aux guerres napoléoniennes et au nationalisme de tout le XIXe siècle. Et aujourd'hui, il y a des phénomènes de ce même genre, c'est-à-dire la volonté de refuser l'universalisme pour retrouver une place dans l'histoire.
Ce refus de l'universalisme, Sanjay Subramaniam, est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà observé et dans d'autres zones que celles peut-être auxquelles on a tendance, nous notamment journalistes, à faire référence, mais aussi dans d'autres zones temporelles, c'est-à-dire dans l'histoire ?
Le refus de l'universalisme, oui, mais ça peut prendre des formes différentes. Le nationalisme, que nous est très familier, n'est pas très ancien comme forme, on le sait. D'ailleurs, il y a déjà cette question, c'est une bonne question qui a été posée par le penseur irlandais Benedict Anderson, c'est-à-dire déjà quand les gens utilisent le nationalisme pour s'affirmer et pour dire qu'ils ont leur propre identité et leur propre culture, en fait c'est un peu paradoxal parce que le nationalisme en tant que forme idéologique, c'est déjà quelque chose qui vient d'ailleurs. Hein? Donc, si quand les Russes ont envie d'employer un nationalisme russe, bien sûr, ils peuvent mettre un contenu dedans qui peut puiser dans le passé russe, mais la forme n'est pas une forme qu'eux, ils ont donnée. C'est une forme qui vient d'ailleurs.
Hein? Et ça, donc, c'est valable pour toutes les idées, finalement, c'est-à-dire toutes les idées qu'on croit universelles et qu'on croit avoir produites, elles ont toujours une forme de métissage.
Oui, mais c'est, dans le cas de nationalisme, en fait, c'est une espèce de module en fait qui se promène d'un endroit à l'autre dans le monde, et c'est pas exactement une question de métissage. C'est comme si, pour ainsi dire, je prenais comme je cuisine un peu le samosa, et donc moi je mets de la viande indienne dedans qui est extrêmement épicée, et vous mettez la crème de chantilly dedans.
Ça reste du samosa.
Ça reste le samosa dans la forme. Et donc, c'est le nationalisme. Mais vous voyez qu'il n'y a pas de métissage, mais il y a une espèce de rapport extrêmement curieux entre forme et contenu. Hein? Vous voyez? Et donc, effectivement, c'est un peu ça le problème du nationalisme, c'est-à-dire que c'est une espèce de forme modulaire dans laquelle on peut remplir des choses extrêmement différentes. Par exemple, un Portugais peut dire mon nationalisme, c'est fait de tel et tel aliment. Un Chinois peut dire mon nationalisme existe depuis 3000 ans, qui est vraisemblablement totalement faux. Hein? Mais toujours en prenant donc cette espèce de forme modulaire assez récente.
Alors justement, gardons cette métaphore du samosa pour voir si on pourrait l'appliquer au monde des idées plus généralement. Oui. C'est-à-dire, est-ce qu'il faudrait pas se dire que une idée, elle est là peut-être pour être utilisée. Bah, vous parlez du samosa, mais moi, j'utiliserais peut-être une autre référence qui est celle du logiciel libre, par exemple, aujourd'hui. Le logiciel libre, c'est un logiciel qui est gratuit, qui peut être transformé, qui peut être diffusé, dont on peut se réapproprier le contenu de manière totalement gratuite et libre. C'est inscrit dans son nom, c'est-à-dire ça va à l'encontre du brevet sur lequel on appose comme ça un tampon, on dit on ne touche plus à cette invention, donc à cette idée. Est-ce qu'il ne faudrait pas appliquer ça justement, ce principe au monde des idées ? On peut, à partir d'un socle un peu commun, donc notre samosa, bah, si on veut y mettre de la crème fraîche, on peut, et ne pas vouloir absolument imposer une idée qui serait naturellement pure et performante.
Oui, mais en même temps, moi, je suis pas, vous savez, comme auteur, je suis pas contre l'idée de droit de l'auteur. Je n'aime pas que quelqu'un, que ça m'arrive assez souvent, comme on pique mes idées, on écrit un autre livre avec, et on fait beaucoup plus d'argent que moi. Donc,
je crois savoir à qui vous pensez. Bon, enfin bon. Hein?
Donc, vous voyez que je pense qu'il faut pas être abusif au niveau de ces brevets, etc. Mais ils ont aussi leur rôle à jouer, et ça a été démontré d'ailleurs par les économistes qui ont démontré qu'il y a un rapport, il y a un rapport raisonnable entre brevets et innovation, ça existe. Donc, si tout était libre depuis le départ, ça aurait aussi des effets néfastes sur l'innovation. Mais là où ça devient problématique, c'est quand les brevets deviennent abusifs et ils se transforment en monopole. Et alors là, on a un vrai problème.
Mais en même temps, Jacques Attali, est-ce qu'on n'a pas besoin d'avoir des idées suffisamment ouvertes et flexibles et réappropriables pour faire émerger cette pensée globale ?
La pensée globale, c'est souvent, je pense à ce concept de société ouverte de Karl Popper. Société ouverte, finalement, elle est tellement ouverte qu'elle est vide parce que toutes les idées en sont parties. Donc, il faut se méfier aussi de ce concept de globalité. Je voudrais revenir un peu plus tard sur la question de savoir quelles sont les idées globales qui pourraient surgir demain. Est-ce qu'on est à l'aube d'une véritable pensée globale ? Je crois que oui, mais...
C'était la prochaine question, justement.
Sur votre question, moi, je prends souvent la métaphore, non pas du samosa, mais de la pizza.
Bon appétit. Hein,
qui revient au même, ou du Irish stew, enfin de pot-au-feu. C'est-à-dire, on y met tout ce que chacun y met. Le Irish stew, le pot-au-feu, la pizza, c'est la même chose. C'est une base dans laquelle chacun met ce qu'il veut et il a son identité. Et en effet, il n'empêche qu'il y a une base commune et qu'il y a quelque chose qui conduit à la différence. Maintenant, dans le domaine des idées, pour le plaisir de la conversation, je vais vous contredire. Je crois que le brevet est une invention qui est une parenthèse dans l'histoire. Ça a commencé assez tard. Disons que ça a commencé curieusement d'ailleurs aussi par la musique. Vous voyez, mon obsession sur la musique comme annonciatrice des changements, c'est la musique par laquelle commencent les brevets, même s'il y en a eu un petit peu avant dans d'autres domaines, mais surtout par la musique. Et aujourd'hui, si j'ai une idée et que je vous la donne, je l'ai encore. Donc, je ne peux pas m'en priver, et personne ne peut m'en priver, elle est par nature gratuite. Il faut inventer quelque chose d'artificiel qui est le brevet pour la maintenir. Et cet artificiel ne tiendra pas.
Oui, mais si vous me la donnez et que je la déforme, vous n'allez peut-être pas être très content.
So what ? C'est comme ça que viennent les changements, c'est comme ça que viennent les transformations. Ensuite, l'histoire décide, évidemment. L'histoire décide qui va... et c'est très mystérieux de savoir, par exemple, si un musicien, si vous avez une succession de musiciens qui ont utilisé la même mélodie... Quel est le musicien dont on se souviendra parce qu'il l'a utilisé d'une façon qui a résonné davantage avec le peuple? Si vous prenez la théorie du capital, Marx est un des plus connus, mais Marx s'inscrit dans un contexte où il a écrit, utilisé, citant ou pas citant, beaucoup, beaucoup d'autres auteurs. Et la question, c'est de savoir qu'est-ce que progressivement l'histoire va retenir comme idée dominante. Je crois qu'aujourd'hui, bon, la question du droit d'auteur est une question matérielle pour les écrivains, qui se pose aussi pour les journalistes, les musiciens, etc., mais qui est une question technique et qui, à mon avis, va sauter. C'est un autre sujet de conversation que celui qu'on a aujourd'hui. Il me semble que la clé, c'est de savoir comment ces idées circulent et lesquelles vont progressivement, comme construction collective, s'imposer comme dominante. Vers 1910, personne ne voyait que les idées dominantes allaient être celles du totalitarisme. Personne ne les voyait venir. Et pourtant, 10 ans plus tard, le totalitarisme régnait partout. Enfin, en tout cas, dans les pays développés, les pays coloniaux en étaient les victimes. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut savoir ou intuiter, deviner quelles vont être les idées dominantes du 21e siècle ? Moi, je pense qu'il y en a, je ferai le pari, qu'il y en a deux qui vont se battre. L'une, c'est celle qui est la plus vraisemblable, c'est celle dont M. Trump est une incarnation caricaturale, mais qu'on retrouve dans beaucoup, beaucoup d'autres dimensions, c'est « moi d'abord ». Qu'on retrouve dans le nationalisme, dans le populisme, dans le consumérisme, moi d'abord, dit la publicité, moi d'abord. Qu'on retrouve aussi, curieusement, dans une certaine partie, une vision caricaturale de certaines pensées d'Asie, le bouddhisme, c'est aussi moi d'abord, quand on le caricature. Et une partie de la pensée indienne caricaturée, c'est aussi moi d'abord, je m'occupe de moi et je m'occupe de trouver mon salut, moi. Donc le moi d'abord va être la grande pensée dominante. Qui s'inscrit dans un courant très profond d'une société qui bascule vers le narcissisme, vers une pensée masturbatoire même, dans le désir, dans l'autisme, dans le narcissisme. Bon, ça, c'est la grande pensée dominante dont le populisme et le nationalisme ne sont qu'une des expressions géopolitiques, mais qui est plus profondément rejoint l'individu comme autiste. Et l'autre pensée radicalement inverse, c'est la prise de conscience de l'interdépendance. C'est l'altruisme. C'est « j'ai besoin de l'autre » pour survivre. Je ne suis rien sans l'autre, en allant au bout dans l'idée « je trouve mon bonheur dans le fait de rendre l'autre heureux ». Ce sont les deux grandes idées. Et la grande question du 21e siècle, c'est d'abord laquelle va dominer. Mon intuition, c'est que la deuxième dominera la deuxième partie du 21e siècle, et la première conduira à la catastrophe dans la première partie du 21e siècle.
Sanjay Subramaniam, je ne sais pas si l'historien peut se permettre d'avoir des intuitions. Enfin, bon, je vous laisse réagir à ce qu'a dit Jacques Attali.
Non, l'historien n'est pas censé regarder dans les boules de cristal. Mais je pense, pour rebondir un peu sur ce que vient de dire Jacques Attali, je pense qu'en fait, là encore, il y a un rapport assez compliqué entre ces deux éléments, parce que le problème, c'est que on peut penser à l'altruisme comme quelque chose qui est juste une espèce de, disons, une position morale, tandis que donc il y a une espèce de deux moralités opposées, si vous voulez. Mais si on pense au problème qui va se poser sûrement pendant le 21e siècle, et je ne sais pas comment on va résoudre ce problème, mais c'est un problème qui se pose, qui est le problème de l'environnement. En fait, là, on voit que on n'a même pas besoin de raisonner par l'altruisme pour arriver à comprendre que c'est un problème. Et c'est un problème d'interdépendance. Et on n'a pas besoin d'être altruiste, en fait, pour voir, sauf si on ne comprend pas comment fonctionne une société. Comment dirais-je, je paye mes billets pour rentrer dans le bus, ce n'est pas par altruisme. C'est parce que je crois que c'est raisonnable de faire ça, parce que ça fait partie d'une espèce de rapport social. Mais le problème, c'est que pour tout ce qui est environnement, comme les gens ne voient pas, on ne voyait pas par le passé quel était le rapport entre ce qu'eux, ils faisaient et ce qui arrivait à une échelle beaucoup plus large, ils ont pu se débarrasser de cette pensée entre l'individu et le collectif.
Mais est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui, Sanjay Subramaniam, qu'il y a une prise de conscience de cette interdépendance ? Parce que pour qu'émerge une pensée commune, il faut d'abord qu'il y ait cette prise de conscience. Est-ce que vous la voyez à l'œuvre aujourd'hui ?
Oui, mais je pense que c'est parmi les problèmes, il y en a beaucoup qui sont posés actuellement par la politique en Inde, la politique aux États-Unis, etc. Je pense que, par exemple, la question se pose. Bon, je viens de rentrer, j'étais à New Delhi. C'est devenu impossible. On ne peut pas respirer. Quand on était dans ces époques à Paris en décembre, quand ça faisait, disons, l'index faisait 100 ou 120, à Delhi, il faisait 600. Vous imaginez, vous ne pouvez pas sortir dans les rues. Mais alors, on continue à produire et acheter des voitures. Il y a toujours la production industrielle dans la ville même. Et on fait ça au nom d'une croissance qui, sans doute, est nécessaire d'un certain point de vue, mais à quel prix ?
Mais donc, s'il y a des réactions par rapport à ce niveau de pollution, c'est plutôt par rapport à ce que décrivait Jacques Attali, c'est-à-dire le moi-je, c'est-à-dire au moi d'abord. C'est-à-dire on est gêné, donc on va vouloir lutter contre ça, plutôt que par altruisme et par prise de conscience que nous sommes tous interdépendants, nous sommes tous sur la même planète et que cette planète est peut-être menacée.
Non, mais l'altruisme et l'interdépendance, ce n'est pas exactement la même chose. Il faut quand même distinguer entre les deux. Et ce qui est assez curieux dans le cas de la qualité de l'air, c'est que vous voyez que même si, par exemple, l'eau est polluée, comme c'est le cas dans certaines villes aux États-Unis, les riches peuvent toujours se débarrasser un peu de ce problème en achetant des bouteilles d'eau. Tandis qu'avec l'air, on n'a pas ce privilège. Et donc, le premier ministre de l'Inde, il est obligé de respirer le même air que moi. Alors, à ce moment-là, ça commence à poser un autre type de problème. Et on n'a pas besoin de passer par l'attitude morale de l'altruisme pour comprendre qu'il y a une espèce de structure d'interdépendance qui existe dans le monde pour un certain nombre de choses, comme l'environnement, qui n'était pas un problème, bien sûr, en Inde au XVIIIe siècle ou au XIXe siècle.
Jacques Attali, c'est peut-être finalement l'égoïsme qui peut permettre d'aboutir à la création d'une pensée commune qui permette justement de prendre en compte cette interdépendance.
Ce que vous dites à l'instant, je l'exprime en disant que l'altruisme peut commencer par ce que j'appelle l'altruisme intéressé. J'ai intérêt à être altruiste. J'ai égoïstement intérêt à être altruiste. C'est ce que vous avez décrit. L'altruisme intéressé comme une transition vers l'altruisme. Même si dans le cas de l'air, on peut très bien imaginer que le Premier ministre ne respire pas le même air que les autres de la façon suivante. On peut très bien imaginer qu'on rentre dans un monde où les riches, s'étendant assez loin, ne vivent que dans des lieux où l'air serait purifié, et donc où on développe toute une industrie qui va se développer de purificateurs d'air, qui va se développer, comme il y a des climatiseurs, il y aura des purificateurs d'air, et qu'on passe, comme on passe d'un endroit climatisé à une voiture climatisée à un autre endroit climatisé, quand on en a les moyens, que les gens riches passeront d'un endroit à air purifié à un autre endroit à air purifié, ce qui aura un avantage annexe de développer une nouvelle industrie, qui est l'industrie de la purification d'air, qui va devenir, à mon avis, une industrie extrêmement majeure, qui permettra de ne pas voir les problèmes d'environnement pendant un moment, en tout cas pour les riches. C'est pour ça que la question de l'altruisme se pose, et la plus grande difficulté du basculement à l'altruisme, c'est la prise de conscience de l'importance des générations suivantes, c'est-à-dire l'altruisme à l'égard des générations suivantes. Vous avez cité la fondation que je préside, nous travaillons dans l'intérêt des générations suivantes. Et c'est la question la plus difficile, à mon avis, d'un point de vue idéologique. En particulier, la plus difficile à concilier avec la démocratie. Parce que la démocratie a le plus grand mal, plus de difficultés que la dictature, je pèse la lourdeur des mots que je prononce, à prendre en compte l'avenir. Puisque la dictature vous dit « je vous impose l'avenir ». D'une certaine façon, la mère de famille ou le père de famille est dictateur, toute proportion gardée à l'égard de ses enfants, quand il leur impose des choses en fonction de leur intérêt à long terme. La démocratie ne peut pas faire ça. Et donc, toute la grande question pour la survie de la démocratie, c'est « sera-t-elle capable de prendre en compte les intérêts du long terme, de l'intérêt des générations suivantes, de l'altruisme à l'égard des générations suivantes, sans remettre en cause la démocratie ? Comment concilier long terme et démocratie ? On le voit aujourd'hui, les régimes les plus efficaces ne sont pas démocratiques. Les régimes les plus
efficaces. Pensez à auxquels ?
Je pense à la Chine, je pense à la Russie, je pense, permettez-moi cette remarque un peu iconoclaste, au Vatican, très efficace, mais on ne peut pas dire que ce soit un modèle de démocratie. Je pense aux États-Unis.
C'est une PME, hein, le Vatican, c'est peut-être pour ça aussi que ça fonctionne.
PME avec 1,5 milliard de clients, excusez du peu. Puisque vous avez appris cette... Je ne veux pas être excessivement critique, et je ne le suis pas, et j'ai le plus grand respect pour ce qu'incarne le Vatican, mais puisque vous avez pris la métaphore économique, je l'ai poursuivi sur votre terrain. Donc, non. Et je sens venir en Occident, et la victoire de Trump s'inscrit dans cela, une idée. D'ailleurs, après tout, la démocratie, c'est peut-être pas le meilleur des systèmes. Et ça deviendra d'autant plus avec les problèmes face au terrorisme. On sera prêt à abandonner la liberté. Vous avez cité les trois. Entre liberté et sécurité, on choisira toujours la sécurité. Parce que l'enjeu majeur du monde, c'est le rapport à la mort. Mot qu'on n'a pas encore prononcé aujourd'hui. Mais c'est le rapport à la mort qui détermine tout. Et les valeurs du XXIe siècle seront déterminées par une seule question, comme pour les siècles antérieurs. Quel sens je donne à la mort ? Et aujourd'hui, dans la logique du moi d'abord, le sens que je donne à la mort, c'est le plus tard possible. Surtout pour ceux qui en ont les moyens.
Sanjay Subramaniam, pour conclure, est-ce que vous considérez qu'il y a des valeurs qui sont non négociables et que, en dépit du fait qu'on est dans l'idée de ne pas imposer un universalisme, il y a quand même des limites, on va dire, à ne pas franchir. Jacques Attali nous parlait de démocratie. C'est vrai que c'est un des premiers thèmes, une des premières idées auxquelles on pense quand on pense à ces valeurs qui seraient peut-être non négociables.
Non négociables, c'est très difficile de dire parce que vous voyez que c'est bon. Moi, j'habitais en Inde. Chaque jour, je voyais des gens extrêmement pauvres qui n'avaient presque rien, qui mouraient comme ça. Et donc, qu'est-ce qu'on faisait ? Même leur vie était négociable, en fin de compte. Et c'était la chose de base, non ? La réalité du monde, c'est que tout est négociable. Ça, c'est la réalité. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner le principe qu'il y a des valeurs pour lesquelles on a besoin de se battre. Donc, c'est pas parce que on peut pas arriver à quelque chose, à achever quelque chose, qu'il faut pas battre pour un certain nombre d'idéal. Et donc, est-ce qu'il faut être idéaliste dans le monde? Si vous me posez cette question-là, je dirais que oui. Mais est-ce qu'il faut être idéaliste en pensant qu'on va toujours gagner et qu'on peut toujours faire ça sans négocier? Non, en réalité, tristement, c'est pas le cas.
Être idéaliste, juste une courte réponse, Jacques Attali, c'est nécessaire ?
C'est nécessaire et je fixerai comme idéal du XXIe siècle, après le XXe qui a publié, écrit et pensé avec les siècles précédents la Déclaration des droits de l'homme, Je crois que le XXIe siècle serait un siècle réussi s'il publiait et appliquait une déclaration des droits de la vie. Pas l'homme, mais la vie. Qui d'ailleurs trouve sa source dans, en particulier dans la pensée de Jain. Mais dans d'autres pensées, je pense à la pensée de Jain parce que l'Inde est à côté de moi. Mais c'est-à-dire la vie, quelle que soit sa forme, quelle que soit son origine. Et si on avait une déclaration des droits de la vie très difficile à décliner, qui n'existe pas aujourd'hui. On a une déclaration des droits de l'homme, on n'a même pas une déclaration des droits de la terre, mais une déclaration des droits de la vie, ça, ça transformerait profondément la nature de l'idéologie.
Et merci beaucoup à tous les deux, Jacques Attali et Sanjay Subramaniam, d'avoir participé et contribué à cette émission spéciale qui s'inscrit, je vous le rappelle, dans le cadre de la deuxième nuit des idées. Merci beaucoup à tous les deux et on poursuit dans un très court instant. Ce sera la troisième et dernière séquence de notre émission spéciale.
France Culture, du grain à moudre, émission spéciale jusqu'à 20h pour une déclaration universelle des idées.
Et nous sommes de retour dans le studio 106 de Radio France avec des invités qui s'installent. On fait un petit peu comme dans le théâtre moderne aujourd'hui, hein, c'est-à-dire qu'on ne baisse pas le rideau. Le public peut voir voilà, les changements. Alors, c'est pas des changements de décor, c'est des changements d'invités. Ils sont quatre à présent. On a commencé avec, pour ceux qui n'auraient pas suivi les discussions depuis le début, avec l'économiste Thomas Piketty qui nous faisait un petit peu l'actualité de son constat, du constat qu'il avait dressé dans son livre « Le capital au XXIe siècle ». Et puis qui expliquait aussi comment lui il concevait un peu son rôle, comment il pèse ou comment il essaie de peser dans le débat public. Vous avez entendu à l'instant Jacques Attali et Sanjay Subramaniam qui discutaient de la question de savoir si nous avons besoin d'idées globales et quelles formes elles peuvent prendre. Et à présent, nous allons poser la question suivante et ce sera la question conclusive pour cette émission spéciale. Les bonnes idées sont-elles contagieuses? Oui, la contagion, c'est un sujet qui est d'actualité avec les virus qui rôdent un peu partout, notamment en France. Donc, les bonnes idées sont-elles contagieuses? Eh bien, ils seront quatre à tenter de répondre à cette question. Anne-Lorraine Bujon, Akram Belkaïd, Anastasia Colosimo et Brice Couturier. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Anne-Lorraine Bujon, vous êtes chercheuse associée à l'IFRI. C'est l'Institut français des relations internationales, rédactrice en chef de la revue Esprit, après être passée par la Vie des idées, après être passée par le Centre d'analyse et de prospective du ministère des Affaires étrangères. C'est dire si, a priori, vous avez vu circuler des idées. Pour discuter avec vous, Akram Belkaïd, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste et écrivain. C'est comme ça que vous vous présentez sur votre compte Twitter. Alors, je l'ai repris, cette présentation. On vous connaît notamment pour vos chroniques du Blédard, qui sont publiées par le quotidien d'Oran. Et vous avez publié aux éditions Carnet Nord, Retour d'Algérie. Et puis, les deux autres invités sont des membres de notre club des idées du Grain que nous vous proposons chaque vendredi. À partir de 18h20, là on a un petit peu décalé le jour et décalé l'horaire. Anastasia Colosimo, bonsoir.
Bonsoir.
Vous enseignez la théologie politique à Sciences Po. Vous avez publié l'an dernier ou en 2015, je ne sais plus, Les bûchers de la liberté. Enfin, c'était assez
2016,
récent.
Oui,
en 2016. Et puis Brice Couturier, journaliste, bonsoir.
Bonsoir.
Le tour du monde des idées que vous proposez chaque jour, du lundi au vendredi, à 11h53. Il faut être précis, n'est-ce pas, Brice?
Et le postillon,
dans
le
l'émission
point.
Culture Monde et le postillon dans le point. Je voudrais d'abord peut-être qu'on examine avec vous quatre, donc, l'idée qu'il faut d'abord observer justement les idées avant d'imaginer de les faire se disséminer. Est-ce qu'une revue, par exemple, comme celle dont vous dirigez la rédaction, Anne-Lorraine Bujon, est un outil qui vous paraît être un outil performant, en tout cas, au moins pour ce qui concerne l'observation des idées?
Oui, certainement, c'est un outil performant, c'est un outil séduisant. Je pense que c'est aussi... une revue, c'est un certain format. pour les idées. Je pense que les idées ne sont pas séparables du format dans lequel elles s'expriment. Donc une revue, c'est une dizaine de pages, une quinzaine de pages pour exprimer quelque chose, donc le besoin d'être synthétique. Et aussi le besoin d'emblée de présenter les idées en dialogue ou en conversation, les unes avec les autres. Donc par définition, c'est une sorte d'espace pluriel dans lequel on observe beaucoup d'idées et on observe comment les idées se comportent les unes avec les autres.
Vous, Akram Belkaïd, vous êtes journaliste. Alors, on n'est pas tout à fait dans la même temporalité, c'est-à-dire quand on publie pour un journal ou quand on publie pour une revue. Est-ce que vous diriez que c'est un outil peut-être complémentaire, justement, pour essayer de voir ce que sont les idées, essayer de les capter? C'est comme ça. Est-ce que c'est, en tout cas, une des façons dont vous envisagez, dont vous considérez votre métier de journaliste?
Oui, les idées et leur propagation relèvent d'un processus itératif et la presse a son rôle à jouer, que ce soit par le biais d'articles, d'entretiens ou même des analyses que peuvent publier les intellectuels dans les pages débat opinion. Ça peut être aussi, on peut aussi avoir des idées de manière être des vigies parfois sans même s'en rendre compte, hein, c'est des signaux faibles, assister à un colloque ou à une conférence et entendre quelqu'un avancer telle ou telle hypothèse ou telle proposition. Je me souviendrai toujours de pareil, je cite un exemple concret, cet économiste américain Jeremy Rifkin, je l'ai entendu à la fin des années 80, début des années 90, parler de sa fin du travail. Et puis, bon, on oublie, et puis un jour, on voit qu'un livre arrive et qu'il y a beaucoup de choses autour de ça, et on se dit que finalement, il testait déjà son idée, peut-être dans un milieu moins, avec une audience moins grande, mais c'est aussi un peu le rôle de la presse d'essayer de vérifier, et puis de vérifier si c'est nouveau ou pas.
Et c'est une idée qui ressurgit, notamment en ce moment, à travers le débat autour de la question du revenu universel.
J'ai cité ça à dessein.
Voilà, je m'en doutais bien. Brice Couturier, qu'est-ce que vous utilisez, vous, pour votre tour du monde des idées? Parce qu'il faut quand même révéler un secret aux auditrices et aux auditeurs, c'est-à-dire que vous ne faites pas vraiment le tour du monde. C'est-à-dire vous n'allez pas tous les jours prendre un avion pour aller voir où se trouvent les bonnes idées. Vous lisez beaucoup, j'imagine, des revues, des journaux, des productions de think tank.
Je vais vous faire un aveu qui me consterne moi-même. Le pourcentage d'informations que je trouve dans les livres, les revues et l'Internet n'a cessé de se détériorer au profit du dernier. C'est-à-dire que moi, je suis un amateur de livres, j'ai une bibliothèque colossale, j'adore lire des livres et de plus en plus, ce que je trouve d'intéressant et d'utile pour le répercuter dans mon émission quotidienne et dans la presse à laquelle je participe. Hélas, ça vient de l'Internet. Ça vient des think tanks que j'utilise beaucoup. C'est souvent dans les think tanks, effectivement, que les idées neuves viennent parce qu'ils ont une liberté de ton, parce qu'ils sont utiles, puisque les think tanks, par définition, c'est des machines à produire des idées à mettre en pratique, à mettre en œuvre par le milieu politique, puisque le think tank, finalement, c'est quelque chose qui est à mi-chemin entre l'université, les laboratoires de recherche et puis les décideurs publics qu'ils sont censés informer. Entre parenthèses, de plus en plus de ces décideurs publics sont tellement démunis d'idées, d'idéologie, de cadres conceptuels intellectuels qu'ils sont obligés de faire appel de plus en plus à ces think tanks et ça pose un problème.
Thomas Piketty nous disait tout à l'heure qu'il ferait bien de lire davantage des livres.
C'est un vrai drame, hein, parce que malgré tout, la réflexion de fond, elle demande du temps, elle demande un fort investissement, et c'est le livre qui fournit cette réflexion de fond. Je ne sais pas si tout le monde aura l'honnêteté de le reconnaître, mais on passe de plus en plus de temps sur Internet et de moins en moins à lire des livres. C'est un vrai drame. Mais moi, c'est vrai que je fréquente d'abord ces think tanks. Je fréquente aussi des sites d'agrégation d'informations. Par exemple, il y en a un que je veux, si vous le connaissez pas, ça sera une information utile. Il y a un truc qui s'appelle Arts and Letters Daily, qui est un truc américain qui dépend de Chronicle of Higher Education, donc la meilleure revue américaine sur l'université. Et ce site met en ligne tous les jours une centaine de références à des articles parus dans des revues intellectuelles prestigieuses, la presse, New York Review of Books pour ce qui est plus connu, jusqu'à des choses beaucoup moins célèbres, mais du monde entier, à condition que ce soit en anglais. Donc voilà, moi je grappille sur ces choses-là et puis j'essaye, pour aller dans le sens de votre question, de voir qu'est-ce qui émerge, qu'est-ce qui est commun, qu'est-ce qu'il y a de nouveau.
Alors on va justement aller sur ces idées nouvelles et de savoir si ce sont les bonnes idées qui se répandent le plus facilement. Mais j'ai pas encore donné la parole à Anastasia Colosimo. Vous nous avez déjà dit dans l'émission que vous vous apparteniez d'une certaine manière à plusieurs cultures. Bon, il y a la culture française, mais il y a aussi une culture russe et puis un intérêt aussi pour ce qui se passe aux États-Unis. Est-ce que ça vous aide à avoir un regard périphérique, à avoir peut-être plusieurs paires d'oreilles et plusieurs paires d'yeux?
Alors ça, c'est absolument évident. C'est sûr que même si on parle seulement des réseaux sociaux, sans parler des livres et surtout de la langue, parce que la langue est quand même déterminante dans le savoir et dans les idées. Il y a des idées qui existent dans certaines langues et qui n'existent pas dans d'autres. Il y a des concepts qui sont intraduisibles. C'est ça aussi la richesse du monde, parce que le monde, c'est des mondes, parce qu'il y a des langues. Et donc, effectivement, même de suivre l'actualité avec un point de vue français et ensuite de pouvoir aller lire la presse russe sur le même événement ou d'aller lire la presse américaine ou de manière générale anglo-saxonne, c'est évident qu'on ressort avec certainement plus de nuances, plus de complexité et aussi une plus grande capacité de se mettre à la place de l'autre, une plus grande capacité d'imagination. Il y a une très grande... Pour moi, il y a un très grand danger, justement, dans la circulation des idées, c'est penser, justement, un universalisme fou qui voudrait dire qu'on a oublié de se demander d'où les gens parlent. Les gens parlent toujours de quelque part. Ils ont toujours une histoire, ils ont toujours vécu dans un certain environnement, ils parlent toujours une certaine langue. Et effectivement, d'avoir accès à différentes cultures, ça permet aussi d'envisager tous ces mondes-là en même temps.
Donc, une idée qui aurait largement contaminé le monde ne serait pas forcément, de votre point de vue, une bonne idée?
Ah non, certainement pas. Alors j'ajouterais en plus, parce que du coup on a eu beaucoup de points de vue, je ne sais pas si on en parlera un moment, mais il y a un endroit où sont produites les idées aussi qui est très important, c'est la recherche quand même, qui aujourd'hui souffre énormément justement de l'instantanéité des idées et de ce format qui se raccourcit de plus en plus.
Alors sur cette question en tout cas du danger de la circulation des idées, qu'est-ce que vous en pensez, Anne-Noraine Bujon, de ce que vient de dire Anastasia Colosimo?
Que ce soit un danger, c'est un danger si elles sont vidées de leur sens ou s'il n'y a plus qu'une formule. En revanche, vous avez demandé si les bonnes idées étaient contagieuses, peut-être que les mauvaises aussi. Ce qui me frappe, moi, et pour aller dans le même sens, évidemment, on ne peut pas séparer de la question, j'ai dit, du format, mais bien sûr de la langue. Une idée est contagieuse quand elle est bien formulée. Quand on trouve le truc qui marche, le truc qui parle à tout le monde. Et parfois, c'est lié à un vrai contenu, à une vraie originalité. Parfois, c'est lié au fait que c'est assez pauvre en contenu et donc c'est absolument passe-partout.
Par exemple, tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Ça peut être une bonne idée parce que c'est quelque chose qui est bien formulé. C'est un bon slogan.
Oui, là, c'est un très bon slogan. On peut penser à.
Non, mais je parle de slogan parce que finalement, ça revient un petit peu à ça, ce que vous dites. C'est-à-dire une bonne idée, c'est d'abord, voilà, c'est d'abord un message avant peut-être d'être autre chose, d'être un peu plus que ça.
Ben, c'est sa formulation. C'est une formulation qui entre aussi, je crois, en résonance avec un air du temps, avec un moment, avec un lieu d'où on parle. Quelque chose fait mouche. Voilà, tout à l'heure, on parlait par exemple des menaces qui pèsent sur la démocratie aujourd'hui, ou peut-être de ce qu'on ressent obscurément, que c'est un système que les gens ne sont plus prêts à défendre, comme ils l'étaient il y a encore quelques décennies. Là, il y a deux chercheurs américains qui ont fait une étude assez poussée, assez fouillée, sur le thème de la déconsolidation de la démocratie. Bon, déconsolidation, c'est un mot un peu compliqué, mais en même temps, je crois que ça entre tout de suite en résonance avec l'idée qu'il y avait une transition vers les démocraties, qu'il y avait une consolidation des démocraties. Bon, ben voilà, là, on est peut-être dans un moment de déconsolidation où ça glisse. C'est une formule qui, je crois, correspond tout de suite à quelque chose qu'on ressent. Enfin, une idée, c'est une image. Si on a réussi à mettre les bons mots sur des choses que les gens ressentent, effectivement, ça circule.
Akram Belkaïd.
La propagation des idées est parfois aussi le résultat d'un rapport de force. C'est-à-dire que lorsqu'une idée naît et qu'elle est consacrée quelque part, elle peut être propagée dans le reste de la planète par le biais d'agendas, par le biais de moyens. Je pense que ça a été évoqué.
Pense à quelle idée, par exemple, ou quel type d'idée?
Prenons, par exemple, toutes les idées qui ont trait d'une manière directe ou indirecte à au néolibéralisme, au libéralisme dans les années 90, dans les années 2000. On voit bien aujourd'hui, si on prend deux parties du monde que sont soit le monde arabe dans son sens le plus large, le monde arabo-musulman ou l'Amérique latine, on a vu que ces idées-là ne se propagent pas simplement parce que elles sont adoptées par tout le monde, elles sont propagées parce que derrière il y a des machineries très fortes. Alors il peut y avoir effectivement des think tanks qui ont un point de vue néolibéral, mais il y a aussi toutes les grandes institutions. Et au final, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que parfois ces idées-là sont reprises parce que elles répondent à une attente de l'extérieur. Si je prends un cas précis qui est celui, par exemple, de certaines ONG qui activent au sud de la Méditerranée et dont les grands, soutiens financiers ont une vision qui parfois s'inscrit dans le cadre libéral ou néolibéral. Eh bien, ces ONG-là vont reprendre naturellement certaines idées qui leur viennent de l'extérieur, mais dont elles ne sont peut-être pas conscientes, qu'elles ne s'adaptent pas à leur environnement direct. J'avais été très surpris, par exemple, pendant les printemps arabes, en 2011, donc il y a 6 ans, les activistes égyptiens, par exemple, revendiquaient la rupture avec le régime de Moubarak, revendiquaient la liberté, le droit, faisaient référence à des textes sur la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais en même temps revendiquaient aussi, reprenaient un peu une espèce de liste de to-do list, de liste à faire, qui cadrait beaucoup avec ce qu'on pouvait lire dans les productions de la Banque mondiale, du FMI ou d'autres institutions.
Ça veut dire qu'il ne faut pas croire peut-être en une totale autonomie des idées, Anastasia Colosimo. Certaines peuvent circuler d'elles-mêmes parce qu'elles répondent à des préoccupations, mais il y a aussi des idées qui sont propagées volontairement et de manière peut-être un petit peu plus, on va dire, brutale. Ça vous fait rire? C'est une idée qui vous fait rire?
Oui, enfin, c'est une idée ça me fait pas rire. Je pense que justement, là, on touche à un sujet très intéressant parce que c'est un sujet très actuel. On a aujourd'hui l'impression, enfin d'ailleurs ce n'est pas une impression, c'est ce qui est en train d'arriver, d'une guerre des idées, et particulièrement du fait qu'on était sorti de l'histoire, que c'était la fin des conflits et qu'on est aujourd'hui dans un choc de civilisation qui d'ailleurs jusqu'à assez récemment était un choc de civilisation qui en gros était le monde arabe contre le monde occidental. Et là, avec Poutine-Trump, on a l'impression d'un nouveau clivage qui en plus est un clivage transgéographique extrêmement bizarre entre des tenants du progrès, un retour très fort du conservatisme. On parle de la propagande poutinienne, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que cette idée justement qu'on impose des idées et l'impression qu'on peut avoir en Occident que Poutine impose des idées, les Russes ont exactement la même impression.
C'est-à-dire quand elles nous déplaisent, on a l'impression qu'on nous les impose. Quand elles nous plaisent, on a l'impression qu'elles se diffusent toutes seules, c'est ça?
C'est exactement ça. Et les Russes, de la même manière, avec la même conviction, disent « mais regardez les chaînes américaines, ce qu'ils disent est délirant, etc. » Donc on voit bien qu'il y a une question de point de vue là qui est un peu indépassable.
Cette guerre des idées dont nous parle Anastasia Colosimo, vous la constatez, vous, Brice Couturier?
Comme souvent, je suis en désaccord assez radical avec Anastasia, que j'aime bien par ailleurs. Pourquoi?
C'est pour ça qu'on vous a séparé un petit peu. Là. Tous pourquoi? Les auditeurs ne peuvent pas le voir.
Parce que moi, je pense qu'il y a au contraire, il y a une espèce un espace public mondialisé de la circulation des idées qui comporte des intellectuels publics qui viennent comme Yann Bourouma de Hollande, comme Dominique Moïsi de France ou Jacques Attali qu'on vient d'entendre, et puis des Américains, des Allemands, que sais-je, tous les gens qui écrivent par exemple sur le site Project Syndicate, que j'aime bien et que évidemment les Russes détestent, parce que pour eux justement ça fait partie de ce réseau mondial des idées plus ou moins occidentalisé, plus ou moins libéral, plus ou moins démocratique, plus ou moins droit de l'hommiste aussi, si vous voulez, pourquoi pas, que les Russes évidemment combattent, puisque eux...
Bah, il n'est pas si mondial que ça du coup alors. Il n'est pas si mondial que ça, du coup.
Mais oui, voilà. Le problème, c'est que ce réseau mondial des idées s'arrête devant certains pays. La Chine a construit, comme on sait, une grande muraille face à son Internet pour essayer d'empêcher la circulation des idées libérales jusque chez elle. Les Russes font la même chose. Ce sont des gens qui simplement s'excluent du marché mondial des idées. C'est dommage pour eux, parce que du coup, ils ne participent pas à ce réseau mondial où, dans lequel figurent également les démocrates des printemps arabes, dans lequel figurent des dissidents chinois, par exemple, ou les intellectuels de Hong Kong qui participent eux aussi à ce réseau mondial. Donc, si vous voulez, ce qui est sûr, c'est que nous vivons la fin de ce processus de mondialisation et d'extension générale de ce réseau des idées, puisqu'on a Trump maintenant aux États-Unis, ça veut dire que c'est la fin de cette aventure de la mondialisation commercial, démocratique et intellectuel aussi. Donc oui, on est menacé maintenant de provincialisation. Alors, je ne parle pas de l'État de la France qui est un pays dramatiquement provincialisé simplement pour une raison toute bête. C'est que les gens parlent trop mal anglais dans ce pays.
Je vais vous étonner, Anastasia Colosimo veut vous répondre.
Non, mais il ne s'agit pas de défendre la Chine, il ne s'agit pas de défendre la Russie, il ne s'agit pas de défendre tous ces pays-là. Il faut comprendre aussi que pour ces pays-là, et pour beaucoup de pays dans le monde, l'Occident a à un moment été dans une telle hégémonie culturelle, a tellement voulu aussi imposer des idées comme des vérités absolues, que leur réaction, même si elle est effectivement parfois excessive et irrationnelle et compréhensible pour nous, c'est aussi de dire, mais peut-être que nous aussi, on a une partie de la vérité, et peut-être même que notre vérité ne ressemble pas complètement à la vôtre.
Anne-Laurent Bijon.
Alors moi c'est autre chose qui me chiffonne un peu là, c'est l'idée du marché mondial des idées, parce que là je pense aussi que ça correspond à une certaine époque, donc celle du développement des think tanks par exemple à l'américaine, et l'idée que on peut produire des idées, enfin qu'on va trouver des idées sur le modèle de l'invention, si vous voulez, technologique, qu'on va découvrir des idées comme le chercheur d'or avec sa pépite, et qu'on va les produire, qu'on peut, il y a vraiment, on peut installer les gens dans un laboratoire d'idées ou dans une boîte à idées et on va leur donner les bonnes conditions et là, donc, ils vont produire des idées qui vont être.
Ça existe, les laboratoires d'idées,
enfin, en tout cas, ce
nom-là existe.
Je sais bien, mais je crois qu'il y a aussi une illusion là-dedans. Donc, on disait, il y a un paradoxe. Les gens lisent de moins en moins et en même temps, on voudrait des idées prêtes à l'emploi. Mais si vous voulez, les idées, on peut pas les produire comme ça sur le modèle d'une voiture ou d'un téléphone. Et je pense que ça correspond aussi à une époque, cette idée que si on était dans les bonnes conditions, on allait produire des idées, on allait pouvoir les marketer. Parce qu'on fait d'abord un livre, ensuite un rapport, ensuite le petit tweet qui va bien. Et je crois que, alors sans vouloir être trop idéaliste, il se passe aussi quelque chose là avec les réseaux sociaux qui est on a sorti, en tout cas s'il y a un mode de production des idées, on est peut-être là dans un moment d'un nouveau mode de production des idées par rapport à ce qui a fonctionné dans les dernières décennies. Et je ne veux pas prêcher pour ma paroisse, mais les revues ou les radios, qui sont des endroits où on peut produire des idées aussi, pas juste pour résoudre des problèmes, pas juste des propositions ou des recommandations pour des décideurs, mais simplement des choses dont on a envie de parler, une façon de saisir la réalité, une façon de nommer les choses, des occupations intellectuelles qui peuvent être séduisantes pour beaucoup de gens et pas forcément utiles. Les idées, parfois, ça sert à rien. Et c'est bien.
Vous évoquez les modes de production, Anne-Laurent Bujon. Il y a un mode de production alors économique aujourd'hui qui a le vent en poupe, c'est l'économie collaborative. L'idée que voilà, quand on associe les différentes forces, on peut réussir à produire et à produire autrement. Est-ce que c'est finalement un mode de production qu'on pourrait et qu'il faudrait associer aux idées pour que ces idées-là finalement peut-être s'imposent moins, mais aient une vertu, en tout cas une valeur plus acceptée par le plus grand nombre, à Akram Belkaïd.
En tous les cas, ça obligerait déjà à réviser la notion d'idée et de propriété sur l'idée. L'un des grands obstacles à la diffusion justement des bonnes idées, en tout cas, on se rend compte que souvent les idées sont entourées de batailles de paternité, notamment. On a aussi des revendications. Alors ça vaut pour les sciences politiques, ça vaut pour l'analyse de tel ou tel phénomène. L'économie collaborative, la mise en relation de gens qui réfléchissent et qui essayent de fournir des propositions, est à mon sens une bonne voie, parce que ça permet de tester justement une bonne idée. Au final, elle n'est bonne que si elle a été validée, si elle n'est plus simplement une opinion, si elle a subi le feu roulant de la critique, si elle a subi des débats contradictoires. Ça ne peut pas être une vérité absolue. Donc,
et si malgré tout ça, elle résiste, c'est là qu'on peut dire que c'est une bonne idée, c'est ça?
C'est une condition nécessaire, mais peut-être pas suffisante, mais en tous les cas, il faut qu'elle soit testée. On est aujourd'hui, et c'était très intéressant, la référence aux réseaux sociaux et au fait qu'aujourd'hui, Internet véhicule énormément de débats et de réflexions. Une idée qui n'est pas, je dirais, mise à mal, qui n'est pas contestée, va avoir du mal à s'imposer parce que, justement, la collectivité aujourd'hui, les gens, en règle générale, ont accès à l'émission d'opinion et de jugement. Avant, quelqu'un pouvait publier un papier dans Le Monde et puis ça s'arrêtait là. Les courriers des lecteurs peut-être faisaient écho à une ou deux réactions. Aujourd'hui, nous avons des gens qui sont peut-être compétents, disséminés partout et qui peuvent réagir, qui peuvent créer un blog. On l'a vu, c'est notamment le phénomène. On revient à 10 ans auparavant. Le traité constitutionnel européen est un bon exemple sur la manière dont les gens peuvent donner leur avis, s'emparer d'une idée ou d'une notion, la contester, l'améliorer. Et l'économie collaborative, en tout cas la collaboration, pour moi, c'est une vraie piste à suivre.
Alors je vais vous proposer peut-être de faire un petit exercice justement collaboratif. Il nous reste 10 minutes de discussion autour d'une idée. Alors on vous a demandé aux uns et aux autres de dire l'idée, la bonne idée qui selon vous mériterait peut-être d'être largement diffusée. Et Anne-Lorraine Bujon, vous nous avez parlé du jugement majoritaire qui serait une nouvelle façon de désigner nos élus. Alors peut-être d'abord expliquer en quoi cela consiste et pour quelles raisons vous considérez que c'est une idée qui mériterait au moins d'être examinée, peut-être d'être débattue, en tout cas appliquée.
Alors vous expliquez exactement en quoi ça consiste. Je ne sais pas si j'en suis capable parce que ce qui s'est passé avec cette histoire de jugement majoritaire, justement c'est intéressant, c'est que c'est quelque chose que j'ai, c'est une idée que j'ai rencontrée dans différents endroits sous la plume de différentes personnes et donc je ne sais pas si c'était exactement la même idée mais je me suis dit ah bah tiens il se passe quelque chose qui est peut-être signifiant. Alors le jugement majoritaire dans cette formulation-là, c'est quelque chose dont j'ai entendu parler d'abord il me semble dans des rapports de terrain. Nova, donc on retrouve le travail des think tanks. Lorsqu'ils ont travaillé sur les primaires, ils ont aussi réfléchi au mode de scrutin. Avec l'idée que peut-être les insatisfactions qu'on a par rapport au processus démocratique aujourd'hui viennent aussi du fait qu'on nous demande juste d'exprimer quel candidat est-ce que vous préférez. Donc quand il y en a 4 ou 5, on a le droit de voter en disant je préfère celui-là. Mais en réalité, dans les démocraties, il y a aussi des candidats dont on ne veut à aucun prix. Et est-ce que la question, quel est le candidat que vous voulez le moins voir au pouvoir, est-ce que ça, c'est pas aussi une question valable? Donc la proposition jugement majoritaire consiste, plutôt que de dire je vote pour un tel ou un tel, à ranger les candidats par ordre de préférence. C'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, ça c'est celui que je veux le plus, ça c'est celui que je veux le moins.
Et celui qui obtient la meilleure note, et finalement, est celui qui est élu, même si c'est pas celui qui aura été en tête de liste, on va dire, à chaque fois.
Voilà, ce qui aujourd'hui, technologiquement, est très facile à réaliser, peut-être autrefois, quand on comptait les bulletins de vote à la main, un peu moins. Mais cette idée, si vous voulez, elle a été aussi... Je l'ai rencontrée dans la New York Review of Books, assez récemment, sous la plume d'Amartya Sen, avec un co-auteur. Et eux, donc, réfléchissent à ce qui s'est passé avec Donald Trump et Hillary Clinton, en disant, mais voilà, c'était l'élection où on avait 2 candidats dont personne ne voulait, en réalité. Et donc, maintenant, ça produit un résultat catastrophique de la vie de beaucoup de gens, et beaucoup de polarisation, et sans doute une aggravation des dysfonctionnements démocratiques qui, eux-mêmes, ont produit cette élection bizarroïde. Et donc, alors eux, ce qui est intéressant, c'est que sous leur plume, et en anglais, ils appellent ça « majority rule », par opposition à plurality rule. Donc on retrouve l'idée de majoritaire qui, pour moi, est plutôt liée au scrutin qu'on a aujourd'hui. Enfin bon, donc il faudrait travailler sur la formulation, mais vous avez compris l'idée, ranger les gens par ordre de préférence plutôt que voter pour une personne.
Et je crois qu'il y a quelques années, ce mode de désignation avait été testé en France, alors en laboratoire, et on aboutissait à un résultat qui aurait permis, par exemple, à quelqu'un comme François Bayrou de devenir président de la République, parce que c'était presque le candidat qui était le moins rejeté par l'ensemble de la population. Alors, qu'est-ce que vous pensez alors, en tout cas, les uns et les autres de ce genre d'idée, Brice Couturier ?
Moi,
Je suis plutôt conservateur, donc je ne crois pas aux idées nouvelles. Je pense en réalité qu'une idée nouvelle, je pense que les idées nouvelles, c'est simplement qu'une réalité qui n'était pas encore perçue le devient enfin. Donc moi, je me méfie des innovations comme ça qui risquent de débranler le caractère démocratique de nos institutions pour je ne sais quelle fantaisie. Une réalité qui n'est pas encore perçue et dont, sur laquelle on peut mettre un mot qu'on peut qualifier. Par exemple, le phénomène extravagant que nous avons sous les yeux qui s'appelle Donald Trump. Que dire de Donald Trump ? Personne ne comprend. Moi, j'ai trouvé quelque chose. Jacksonien. Andrew Jackson. Faites un parallèle comme les Américains le font.
Ancien président américain.
C'est pas une invention à moi, évidemment. Mais si vous prenez la trajectoire politique de Andrew Jackson, un président élu dans les années 30 du 19e siècle, et que vous voyez que ce type, effectivement, c'était un populiste qui avait été élu en opposition avec le secrétaire d'État sortant. Comme Hillary Clinton, tiens, bizarre, que ce secrétaire d'État était le fils d'un président des États-Unis, comme Hillary Clinton est la femme d'un président, que ce type se présentait comme the friend of the common man, l'ami de l'homme du commun, qu'il était extrêmement violent, il avait fait la guerre contre les Indiens, c'était une véritable brute, et que en matière économique, en matière internationale, pardon, il était un protectionniste et un isolationniste très virulent, qui disait que le reste du monde était dangereux et qu'il fallait que les Américains ne s'en occupent pas. Et vous avez effectivement, vous comprenez un peu mieux ce que c'est que cette espèce de personnage qu'on ne comprend pas. Donc, vous voyez,
mais
moi, je crois.
Il a terminé comment, cet Andrew Jackson ?
Il a été réélu, c'est une très mauvaise nouvelle.
Akram Belkaïd.
Oui.
Je ne sais pas si vous voulez plutôt revenir sur Trump ou plutôt sur cette idée de jugement majoritaire, en tout cas de d'imagination pour essayer aussi de modifier un peu la façon dont on pratique la démocratie aujourd'hui.
Écoutez, avant de venir cet après-midi, d'ailleurs j'en ai partagé quelques extraits sur les réseaux sociaux, j'ai relu un texte d'Edgar Morin qui s'appelle La métamorphose, où il faisait le constat du fait que dans la planète aujourd'hui, nous avons énormément d'initiatives, de tests qui relèvent peut-être ça peut être le cas du jugement majoritaire, qui sont testés ici ou là sans que nous ayons une vision globale des choses de ce vers quoi ça nous mène. Et donc toutes ces idées méritent d'être testées. Laquelle va s'imposer, personne n'est capable aujourd'hui de le dire. On peut dire la même chose du tirage au sort, par exemple, de la désignation par tirage au sort qui, même si nous avons un conservateur parmi nous, c'est une vieille idée. Je crois que les Grecs l'ont testé il y a très longtemps. Voilà. Donc moi, c'est ce genre de être attentif à ces questions-là me paraît être très important. Sur la question que vous posiez, sans donner l'impression de vouloir participer de près ou de loin au débat électoral à gauche, le revenu universel, par exemple. Moi, il m'intéresse pour la France et pour l'Europe, mais il m'intéresse pour les pays du Sud. Et c'est une constatation. Voilà, par exemple, une idée qui n'a pas circulé. Il est très peu question du revenu universel dans les pays du sud de la Méditerranée ou de l'est de la Méditerranée. Si je prends le cas
d'Amérique. Vous l'expliquez justement, alors que cette idée ne traverse pas le.
Alors, elle traverse, il y a des chercheurs, mais elle n'est pas popularisée parce que, ma foi, c'est pas la priorité. Mais quand vous regardez de près, si je prends le cas d'un pays comme l'Algérie, par exemple, qui a une rente pétrolière, qui a des revenus, je me dis, et où une partie de la population revendique le droit à l'accès à cette rente, voilà quelque chose qui, normalement, aurait dû avoir un succès énorme. Vous dites aux gens, ben voilà, vous avez un revenu garanti à partir. Ça devrait même être une revendication politique. Au lieu de cela, les gens s'égarent sur le terrain identitaire, sur le terrain religieux. Et ça fait partie des choses, à mon avis, que nous autres journalistes pouvons d'abord pointer et peut-être contribuer à faire circuler.
Anastasia Colosimo.
Sur le revenu universel ?
Sur ce que vous voulez. Parce que c'est vrai qu'on parle de Trump, on parle de jugement majoritaire. Non, mais cela dit, on est toujours évidemment dans le même sujet de discussion, mais de revenu universel. Non, et aussi sur l'idée peut-être, alors je vais être un peu plus sérieux, de la nécessité, en tout cas, de tester des idées qui, sans être forcément nouvelles, peuvent être des idées qui le sont parce qu'on les avait oubliées et qui mériteraient peut-être d'être réexaminées.
Ça, j'en suis absolument convaincue. Je pense qu'il ne faut pas forcément être conservateur pour penser qu'il n'y a pas de nouvelles idées. Je pense que c'est très très rare dans l'histoire qu'il y ait eu vraiment d'immenses ruptures. Je pense qu'en lisant les Grecs, on a à peu près déjà tout dit des idées, et ensuite ce ne sont que des ramifications. Donc, oui.
Donc relisons les Grecs. Et ce sera peut-être la conclusion, si vous le voulez bien, car comme vous l'entendez, c'est le générique de fin. Je vous remercie en tout cas à tous les quatre d'avoir participé à cette émission spéciale.
Merci.
Anne-Maurène Dujon, Brice Couturier, Anastasia Colosimo et Akram Belkaïd. Je voudrais également remercier Mélanie Chalandon, Céline Leclerc, Fanny Richer, Cyril Baer, Jean-Christophe Francis, c'est-à-dire toute l'équipe du Grain à Moudre. Remercier Olivier Dupré, Célia Dufour et Tar Bouklifa qui étaient à la prise de son ce soir. Et puis Mathilde Serrel et Martin Kénéen qui nous avaient laissé leur créneau horaire de ping-pong. Vous les retrouverez dès demain à partir de 19h. Merci à tous.